with her. Les cravates espagnoles.
Les cravates espagnoles. J'ai rien contre non plus. Je dirais que de manière générale, les cravates m'ennuient. À moins que les Espagnols aient véritablement, comment dirais-je, une valeur ajoutée à apporter au concept. Bon, sinon les cravates, en général, me font un peu chier.
Radio éphémère 89.1. Suave ce matin.
Fipienne, merci. Fipienne, année 70. 103.5.
Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 20 avril 2013 et c'est une ambiance un peu cool et décontractée ce matin dans laquelle nous allons parler des programmes pour cet après-midi, donc à 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et
yeah, ragamuffin, we are in the vestiaire.
À 15h du reggae avec Jane of Dead. Oh, je n'y arrive plus, c'est terrible. Et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici votre film à frisson que vous attendez tous.
Passez-moi le sopalin.
Précédemment dans le supplément week-end.
Et ainsi de suite. Donc, si nous lisons entre les lignes, est-ce que tu penses, tu insinuerais qu'Isneo s'est servi de cette polémique-là pour marteler le nombre de bandes dessinées francophones qu'ils avaient dans leur catalogue.
Voilà.
Voilà. Je dis pas ça. Est en train de changer de logiciel comptable pour les publicités.
J'irai pas jusque là, mais juste pour dire qu'à mon avis, il y a des solutions pour contourner ça. Et je suis étonné même qu'ils aient pas encore rentré dans ce système-là pour justement s'affranchir des 30% d'Apple.
Alerte complot.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport. Ultimatum. Das Creek. Et la participation exceptionnelle de JB.
Voilà, d'abord pour commencer, on s'excuse auprès des auditeurs du podcast pour la qualité de son absolument lamentable. Alors en fait, le son sur la FM et sur le stream, j'ai eu confirmation, il était correct. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, l'enregistrement, moi j'enregistre à partir de deux sources normalement, et les deux sources sont plantées en simultanément, ça arrive. Donc on s'est reporté sur un enregistreur de secours. L'enregistreur de secours avait un traitement de son qui était très mal calé. Voilà, donc
c'est bon, l'enregistreur légal. Trompé de réglage, allez,
c'était la boîte noire de l'émission.
Voilà, c'est non de la radio puisque en fait c'est un enregistreur légal. Ce qui nous aurait posé des soucis si effectivement le son était resté comme ça. Donc voilà, ceci dit, on n'a pas fait émission la semaine dernière et on n'a pas pu s'excuser à ce moment-là qu'effectivement on avait eu un son de merde. Et pour cause, qu'est-ce que l'on est allé faire? Bah, relancer derrière, mince.
Ah oui, on est allé. Alors il faut qu'on présente ce qu'on va entendre maintenant. Donc nous étions chez nos amis du TGS pour l'édition TGS Onami qui avait lieu à La Bèche le samedi et dimanche dernier. Nous en avons profité pour enregistrer quelques interviews. Est-ce qu'on peut dire ici qui on a interviewé?
Et pour se faire bisuter.
À savoir
l'acteur Warwick Davis. Donc nous avons ramené l'interview, d'ailleurs, oui.
Il a eu que deux
interviews. Entre deux saucissons, des gros yeux.
Professeur Thibault qui est là, en fait, pour le dossier spécial tout à l'heure. Voilà. Oui, il a eu que deux interviews quand même, samedi. Donc voilà, on était les deuxièmes intervenants.
Alors c'est rigolo parce qu'il nous a fait de l'humour très britannique puisqu'on a demandé comment on parle. On va arriver à se comprendre. Il nous dit oui, je parle anglais, c'est bon.
Mais il a beaucoup d'humour sur lui-même. Il a une application et une série télé sur sa vie. Hein, il faut savoir.
Ouais, une application sur tablette et smartphone qui s'appelle Pocket Warwick. C'est comme un Tamagotchi. En fait, tu le prends en charge sous sa douche et tout, et puis il doit répondre à des appels de casting pour essayer de dont la notoriété doit grandir et tout, et il essaie de faire
son de grandir.
Non. Pas.
tu le fais exprès. Est-ce qu'il doit répondre, être forcé à répondre à des interviews au TGS?
Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était l'occasion pour pour voir ce que valait sur le terrain Morgan.
Ouais,
et bon. on l'a pris et zou.
Alors, je t'explique ton gage, hein. Tu ne perds pas ça, tu ne touches à aucun bouton. D'ailleurs, hop, je vais le verrouiller, comme ça, je suis sûr. Voilà, ça enregistre. Ça enregistre. Il faut bien que ça soit dans l'angle et tout ça, hein. On est bien d'accord, Morgan.
Attends, oui, on est bien d'accord, mais arrêtez de tripoter mon casque. Attends, Thomas.
Écoute, estime-toi heureux qu'on tripote seulement ton casque, hein. Ça pourrait être pire. Je te rappelle que tu as encore un bleu, hein. Alors voilà. Alors, je t'explique le principe. Ouais. Le TGS, c'est profite pour regarder parce qu'après tu pourras plus. Parce qu'après il y a trop de monde.
Ah, parce que là il y a pas de monde.
Là c'est vide.
Donc là il y a personne. On est d'accord. Très bien. Alors. Vas-y, présente-moi un peu.
Alors, des coupe-choux dans toutes les longueurs, des bouquins qui se lisent de droite à gauche en noir et blanc, hein, je te rappelle, hein, la question de l'audi lecteur. Voilà. Du cosplay, ça va de la perruque teintée maison jusqu'à la haute forge, comme tu peux le voir.
Ah. Voilà. Yeah. Mais tous ces gens sont a priori normaux, enfin je vois pas. Ah, un t-shirt Bob l'éponge. Oh, pour des bébés. C'est fantastique. Je vais en acheter, mais je... Voilà. Alors là, nous sommes devant un stand...
Toujours exactement dans l'axe du micro, s'il te plaît.
Oui. Oui, mais si tu me le laissais un peu... Voilà, laisse-moi le tenir. Alors je commande. Xavier est hystérique. Littéralement, il est hystérique parce qu'en fait, il se sent comme chez lui. Parce qu'il est chez lui et deux fois par an...
Alors, je t'explique. Ton premier sujet, il est la coco. Tu le fais au hasard. T'as rien sous la main. Comme un vrai, comme un pro. Allez, hop.
Alors, enchanté. Donc, je me présente, Morgan Camilleri, de l'émission Supplément Week-end. Alors, parle-moi un peu, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu présentes? Alors, c'est de la radio, donc présente-nous un peu tes œuvres.
Bah, voici mes marqueteries. Marqueterie de style manga.
Donc, alors, c'est fait sur quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est représenté? Explique-nous.
Bah, je représente tout ce qui est modèle manga, anime, sur du bois.
Ah, alors, c'est super joli, ça brille, c'est verni. Tu utilises quoi comme technique?
Le vernis au tampon. C'est utilisé depuis l'ancien temps pour tout ce qui est meubles Louis XIV.
Tu utilises des produits anciens, artisanaux?
Oui, je suis de formation ébéniste, donc je suis resté un petit peu dans ce monde pour faire toutes mes œuvres. Quoi.
Et tu fais ça professionnellement? C'est sur ton temps personnel?
Temps personnel pour l'instant.
Mais t'aimerais bien en faire quelque chose de professionnel?
Oui.
Super, c'est la première fois que tu viens ici?
Ici, oui, c'est la première fois.
D'accord. Et est-ce que ça se vend bien alors?
Non, pour l'instant, c'est calme.
C'est calme, mais bon, c'est le matin, donc ça, c'est pas très grave. Bon, ben, je te remercie. Comment tu t'appelles déjà?
Charon Ludovic.
Eh ben, je te remercie. Bon.
Voilà, donc
franchement, je trouve que pour une mesquinerie de ta part, je m'en sors pas trop mal.
Oui, parce que c'est vrai qu'on l'a pris, on l'a reçu, on était Morgan, on lui a donné le badge et hop, immédiatement, je lui fous le casque et le micro dans les pattes.
Enfin,
c'est vraiment uncut là, et on était allé voir justement donc ce charmant jeune homme qui est tout jeune. Hein, c'était la deuxième fois en fait qu'il faisait une exposition.
Quand il m'a dit son nom, je voulais le répéter, mais j'ai pas réussi.
C'est
trop long.
C'est un peu difficile, mais en tout cas, il fait un boulot
très, ouais, super boulot.
Super.
Vous pouvez voir sur Twitter en direct. Le petit oiseau, pardon.
Voilà, sur face de livre aussi.
Et face de livre.
Et donc aussi sur Overblog et Google Plus. Voilà.
Et je le remercie de sa patience.
En tout cas, ce qu'il fait, c'est vraiment extrêmement beau.
Ouais.
Et la réflexion que l'on avait avec Thomas, c'est qu'il se trompe de clientèle. Il se trompe de sujet. Enfin, si les sujets manga, c'est super beau pour ça, ouais, etc. Mais s'il avait fait du comics ou de la bande dessinée européenne...
Plutôt la bande dessinée européenne, puisque c'est là qu'il y a les portefeuilles, en fait. Les amateurs de manga, ils sont pas là. C'est plutôt surtout, des jeunes et ce sont...
Et surtout les galeries d'art. Les galeries d'art, faut pas l'oublier, oui, c'est que quand tu achètes par une galerie d'art, c'est défiscalisé. Merci aux frères de Laurent Fabius, qui est vendeur d'œuvres d'art. Voilà.
Voilà. Au cas où notre invité vous souhaiterait participer, on va quand même peut-être le présenter. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Professeur Thibault.
Bonjour.
Voilà, tu es là pour nous.
Bon appétit.
Pour nous parler, puisqu'on vous avait promis une spéciale autour du réalisateur espagnol Jesús Franco qui nous a quitté ce mois-ci. Donc tu es là pour nous parler de ce fameux bonhomme. Donc nous y reviendrons tout à l'heure, donc tu interviens quand tu le souhaites, deux cacahuètes
deux cacahuètes et deux tranches de saucisson, exactement.
Et un verre de coca.
Alors, juste une chose, attention, méfie-toi, la sangria avec modération, et je crois qu'elle est vraiment bas de gamme. Ceci dit donc, est-ce que justement Professeur Thibault est allé au TGS, voir au TGS ou un ami?
Il est allé au TGS il y a très longtemps, voilà, une fois, pour voir, hein.
Mm-hmm.
Voilà.
Alors
il faut bien que le jeune s'exprime.
De n'importe quelle façon, c'est ça?
Oui, voilà. Je pense que je suis un peu vieux.
Faut dire que la veille.
Il n'y a pas d'âge, mais parce qu'on a vu de tout quand même. Hein. Je pense que là.
Ah oui,
il y a
tout,
c'est étonnant. Il y a de grands enfants encore.
C'est ça, mais
non,
c'est
mais
exactement
y ça. Il bon, y avait un cosplayer de 60 ans d'ailleurs qui était en aventurier. Il y avait.
Et oui, ben.
C'était vraiment pas
mal. Allez, on va laisser Morgan nous.
Il y avait des trolls aussi qui étaient assez âgés. Alors on a eu du troll, on a eu des elfes, on a eu du sauron, on a eu
Le sauron était bien.
Le sauron était génial.
Magnifique.
Alors on avait un doute, mais il avait bien l'anneau. Donc c'était avant la crise. C'était un sauron. voilà. Époque du Hobbit. Et donc ouais, ben moi j'étais quand même. Il y avait du monde quand même, je trouvais. Mais si tu me dis que c'était pas si cher.
Moins que les autres. Ouais. Mais on a eu l'intelligence de partir à une heure qui était assez raisonnable et de ne pas revenir. Enfin, toi, t'es venu dimanche du sport.
Ouais, ouais.
Donc, est-ce que toi, tu as vu qu'il y avait moins de monde que les autres années ou pas?
Bah, c'est-à-dire que quand j'ai regardé tes photos, quoi, sur que t'avais prises et tout, que j'ai vu la queue, qui a pris la photo de Diagora avec la queue devant, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, nous, on n'avait pas de queue. On est rentré direct, il n'y avait personne, tu vois. Mais bon, il était quand même assez tôt, il était 11h du matin, quoi. Et c'est vrai que il y a eu un peu plus de monde l'après-midi. Je pense que bon, il y avait vraiment moins de monde qu'il y en a d'habitude, hein, de toute façon.
Enfin,
c'était quand même, et on va dire, bon, c'est con pour Seb et Rafik, mais bon, au moins on pouvait
respirer,
se déplacer, on pouvait aller.
Le couloir de la mort.
C'était la première fois que pour un Oanami, il y avait vraiment les deux parties qui étaient libérées.
Ouais.
Donc ça a aidé, c'est un peu la surface d'un TGS d'il y a un an et demi. Donc
après ceci dit, c'est vrai qu'ils avaient testé ça sur la version Oanami de l'an dernier, puisque ils avaient fait le
couloir. Non, il y avait pas les étages côté Agora.
Ouais, il y avait le couloir de la mort qu'ils ont fait en sens unique, donc ça c'était pas mal de faire le tour par le dehors, puisqu'en plus c'est une édition de printemps, donc ça a permis aux cosplayers aussi de s'oxygéner un petit peu, parce que c'est vrai qu'avec des costumes assez lourds, à un moment donné, un pépin, si t'as un malaise, un truc comme ça, ça devient assez ingérable.
Lourd et très léger, hein. Il y avait quand même les deux. Il y en a qui avaient prévu dans les deux sens.
Je trouve que tu es en forme aujourd'hui, nous allons te laisser débriefer le festival juste après. Et sinon, pour avoir vu quelques réactions sur les réseaux, c'est vrai qu'il y a le sentiment général qui suivait après ça, c'était que les gens, en fait, étaient contents de retrouver un petit peu, de procéder à un retour aux sources. hein, dans un esprit un peu plus familial par rapport justement au quoi qu'il y avait eu au côté de l'organisation sur le parc des expos. Et là, c'est vrai que les gens étaient plus en habitués avec ouais. les restaurants qu'ils avaient l'habitude de fréquenter, les animations, l'emplacement de la scène qui n'avait pas changé. Donc c'était les gens étaient assez contents de retrouver cette configuration là. Morgan, toi, c'était ton premier TGS.
Oui, c'était mon premier, donc l'édition Wanami. Alors, je me demandais s'il y avait moins de monde à cette édition-là qu'à l'édition oui. qu'il y a eu à, c'était quand, en décembre?
Alors, il y avait l'édition normale, c'est en décembre, et il y a le Wanami tous les ans.
Ouais. Alors bon, je m'étais dit peut-être que ouais, c'est différent, mais finalement, c'est le même public à peu près quand même.
Oui.
Mais j'étais surpris, ouais, du public en soi, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes enfants avec leurs parents, leurs mères qui viennent. Alors déguisé ou pas ou voilà, mais tout le monde, enfin la plupart des gens jouent le jeu quand même.
Oui.
Je pensais qu'il y aurait moins de cosplay que ça.
Ah bah là, ouais, c'est. Je pense que les gens qui sont pas en cosplay sont minoritaires.
Voilà. Ouais, ça c'est sûr. Et
moi j'ai trouvé
pas mineur, hein, minoritaire. Enfin moi personnellement, enfin qui suis déjà allé à plusieurs TGS, j'ai trouvé que pour le Wanami justement, il y avait beaucoup de cosplayers. Quoi. Mm-hmm. Ça me paraissait.
Parce qu'à la base le Wanami c'est édition plutôt BD.
Non, c'est une version. Alors à l'origine c'est une version plutôt japonaise.
Wanami ouais, c'est la fête du printemps on va dire.
D'accord.
Donc, ouais. Plus que ouais. sujet... japonaise.
D'accord. Plus orchestré bien-être.
Et à ce sujet.
D'où le salon qu'on a pas
massage.
Ouais.
Et à ce sujet d'ailleurs justement, je trouvais qu'il y avait beaucoup moins de choses en rapport avec le Japon cette année qui étaient présents et je pense que c'est dû. En fait, tout simplement au fait que la plupart des stands sur le Japon traditionnel, les associations ouais. et les offices de tourisme et tout ça, étaient à la Foire Expo.
Bah oui.
Au même moment,
et
puisque
bah,
la,
ouais. en même temps.
La veille, il y avait une nuit spéciale Japon. Donc voilà.
Oui, oui, avec une très 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 belle expo sur la culture du Japon, la Foire Expo. Je sais pas s'il y en a qui sont allés le voir apparemment ici. C'est une expo sur le Japon qui est magnifique. Justement dans les halls très impersonnalisés du parc des expos, ils avaient réussi à créer une ambiance nocturne avec des expositions de katana, d'armures de samouraï avec un pan culturel avec des reproductions en grand format. Tu avais les herbes et les thés où tu pouvais vraiment t'imprégner des odeurs. Tu avais justement toute la culture japonaise, l'importance du cerisier, etc. Et c'est une expo avec des reconstitutions de petits ponts. De petits ponts en bois japonais, reconstruction d'un mini jardin japonais où il t'expliquait ce que ça voulait dire et tout. C'était vraiment au sein de justement d'une foire où ils vendent des tracteurs, des piscines et tout. Et là, t'avais ça au milieu et vraiment c'était un dépaysement total. Et puis t'avais, si tu voulais emporter chez toi un peu de culture japonaise, t'avais aussi plein de kimonos, des vêtements traditionnels à acheter aussi, qui participaient aussi à ce truc-là. Donc je trouvais ça pas mal, oui.
Nous, on a goûté du thé à la fleur de cerise.
C'était très bon, non, c'était fleur de citronnier.
Voilà. C'était bon.
Mais c'était très très bon.
Est-ce que tu as réussi à te faire masser les pieds finalement?
Non, alors j'y suis allé, mais c'était bon.
On n'a pas encore parlé de Tarantino, tu vois. Et déjà, on enchaîne sur les.
Ouais, sur les pieds, ouais.
C'est terrible.
Ça tombe genre Jotron là, en ce moment.
Oui, il y avait massage de pieds, je crois, massage crânien, enfin toutes des zones comme ça, un petit peu sensibles pour te détendre. Mais c'était plein et voilà, il fallait prendre rendez-vous 2 heures à l'avance.
Donc, alors il y avait aussi une exposition de voitures tunées japonaises.
Ah oui.
Ça, sur le parking extérieur.
Miniature.
Oui. C'était petites voitures hein, japonais puisque.
Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on a japonais, c'est ça?
Bah non, mais ils les importent en plus de là-bas. D'ailleurs, tu remarques, elles sont les plaques. Non, c'est une asso qui les importe et pour leurs adhérents en fait.
Ouais, c'est les mecs qui se regardent Tokyo Drift une fois par semaine.
Mais je pensais justement, ouais, Tokyo Drift.
Ah, c'est eux.
C'est eux. Tu parlais tout à l'heure de bouffe. C'est vrai qu'il y a les restos autour de Diagora. Il y avait Atsu qui était sur place, qui fait
restaurateur.
La bouffe, qui
un
fait
grand
la
succès.
Bouffe traditionnelle manière kendo. Donc c'est des boulets, des trucs comme ça, des omelettes de choux. C'est assez costaud et c'est sympa.
On n'a pas parlé des concours de danse et des concerts en live. Alors on a eu aussi une personne qui a passé des génériques depuis un site web.
Alors ça c'est oui, c'est Coucou Circus, les blind tests où ouais. En fait
il est passé à l'envers. Ouais.
À l'envers.
Il avait passé Pokémon à l'envers, je crois.
C'est pour désenvoûter. Ouais.
Bon, mais je crois qu'on a fait le tour.
Ouais, voilà. Après,
avant que le professeur s'en aille en courant.
Non, j'écoute religieusement.
Il mange
et avec intérêt.
C'est ça, non, et tu as raté Mamie Bisou, donc une charmante mamie qui faisait des bisous.
Voilà, c'était une grosse parodie.
Il y a juste un truc qui m'intrigue, c'est le tuning japonais. ça change quoi par rapport au tuning?
C'est très 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 bien exécuté.
En fait, c'est des voitures japonaises. Et t'en as certaines qui ont en guise de tuning, en fait, ils sont à l'effigie du héros de One Piece sur le capot.
Ah ouais, ok, d'accord.
Alors, Mus, tu m'as coupé, je voulais te dire un truc, j'ai oublié. Ah. Bon, mais c'est pas grave, je le retrouverai tout à l'heure.
On retrouvera tout à l'heure. En tout cas, on sentait qu'il y avait, c'est vrai, un peu moins de choses. Je pense que c'était aussi la proximité pour les organisateurs du Monaco Game Show. Mais en tout cas, c'est vrai que le fait que c'était un peu plus aéré, c'était un peu plus agréable.
Il a fait
on avait
super beau.
C'était
nickel.
Ah oui, voilà, j'ai retrouvé. En fait, il y avait alors pour ceux qui sont amateurs de Game of Thrones ici, je sais pas s'il y en a un.
Ouais, je connais la série, ouais.
Alors c'est marrant parce qu'il y a une mode en fait depuis des années dans ce genre de conventions, c'est les free hugs. Si tu connais, ouais. Les free hugs, ce sont des gens qui se baladent avec un panneau où ça marqué free hugs, donc câlin gratuit.
Il y en a,
tu enlaces de quelqu'un gratuitement pendant 2 secondes et puis après tu finis ton tour. Et là, il y avait un gars qui était cosplayé en Khal Drogo, donc le barbare de Game of Thrones, il avait marqué free fuck. C'était énorme.
Voilà. Et bah.
Et le même mec d'ailleurs était revenu le lendemain cosplayé en Spartiate de 300.
Excellent.
Ah, je l'ai vu, mais ils étaient plusieurs, hein, ils étaient 3 ou 4.
Oui, voilà.
Quoi.
Alors, ils avaient fait du.
Il en manquait un paquet quand même.
Hein.
Ils ont fait peur à mon fils.
D'accord. Bon. Vous écoutez Radio FMR sur Super Bon Weekend, 12h20. C'était un chouette débrief. On passera l'interview de Warwick quand on pourra, parce que quand même, on a pas mal de retard sur les interviews, c'est vrai, on a beaucoup de choses en attente. Donc, il va falloir prioriser. Ça va être un peu compliqué.
Prioriser.
Sachant que la semaine prochaine, on va parler quand même médiéval.
Du jour, bonjour.
Pour la peine, Morgan, il est chaud là.
Qu'est-ce que j'ai fait?
Oh, le courrier des audis spectateurs.
Il change de nom à chaque fois.
Il a son propre jingle maintenant.
Ah oui.
Ne parlez pas, je veux l'écouter.
Ah, c'est la séquence du spectateur.
Parce que là, ça me plaît.
Tintintintin.
Tintin.
Parlons shopping aujourd'hui. Alors les filles.
Allez, vas-y.
Un petit coup à boire les gens.
Alors, merci. Et oui, donc le courrier des audilecteurs qui n'avait pas été présenté depuis maintenant près de 3 semaines. Donc j'ai des courriers un petit peu poussiéreux là qui sont entassés sur ma bibliothèque et mon bureau. Donc je vais les ressortir un peu en vrac comme ceci. Donc par exemple, je prends au hasard. Allez hop, je déchire la lettre. Alors. La semaine dernière, donc il y a maintenant 3 semaines, il n'y a pas eu d'émission. Et oui, ça va. Angoissé, paniqué, stressé, je me suis réfugié devant énergie douce pour oublier ma souffrance et regarder celle des autres. Maintenant ça va mieux, je relativise et je me dis que ce n'est pas si grave comparé à eux. Donc dans un sens vous m'avez soigné, merci, mais partout à tis, ne refaites plus jamais ça.
Alors si un conseil je peux te donner, en notre absence, je te conseille de regarder sur D8 l'intégrale MacGyver qui commence à midi et qui finit à 19h et qui est vraiment une culture geek par excellence. À l'époque il y avait peut-être les Misfits qui passaient sur une autre chaîne. Mais là-dessus, tu apprendras plein d'astuces bricolage. Comment désamorcer une bombe nucléaire avec un trombone? Comment pirater le Pentagone avec un laser? Ou encore, comment avec un chewing-gum sauver la dinde de Thanksgiving?
Voilà, donc Robin Dubois, homme sensible, on t'a répondu, merci à toi.
Et ça, c'était en impro quand même.
Merci, Tascrich. Un autre courrier, allez au hasard. Bonjour à toute l'équipe et merci d'avoir sélectionné mon courrier pour être diffusé en direct. Je crois savoir que vous croulez sous les sollicitations. C'est bien vrai. Ma question est la suivante. J'ai investi dans la BD virtuelle, notamment chez Isneo, on en parlait la semaine dernière, il y a 2 semaines, non? Parce que j'aimais bien les images. Bon. Cependant, une récente histoire avec Apple semble jouer en ma défaveur. Ce secteur est-il en péril? Dois-je continuer à investir dedans? C'est signé Jérôme Casuac, homme plein de ressources.
Eh ben, puisque tu as beaucoup de temps, moi je te conseille un truc de geek que j'ai vraiment aimé.
Encore?
C'est une des toutes premières BD. C'est Megatokyo.com, Megatokyo.com qui existe depuis 10 ans hein, en bloc BD qui est complètement délirant et on y voit des grands moments comme la sortie de la PS2 et tout ça, c'est-à-dire si ça remonte. En bande dessinée numérique aussi, il y a Coconino World qui est l'un des plus vieux sites sur la bande dessinée qui est animé par l'un des anciens conservateurs du musée de la bande dessinée de l'image d'Angoulême. C'est un site qui a maintenant bien 15 ans, qui est d'une beauté époustouflante. Coconino-world.net, je vais mettre de suite là le lien. Et là, de ce côté-là, c'est du bonheur.
Super.
Absolu.
Eh ben, j'espère que vous avez bien écouté le conseil du jour. Donc, J. Casuac, si tu nous avais bien écouté, si tu peux encore le faire.
Reprononce-le pour voir.
J. Cahuzac.
Cahuzac. Oui. T'avais dit Casuac.
Oui, je sais, mais je pensais que ça passerait.
C'est casual.
Tu vas commencer à arrêter à prendre les noms de que tout le monde écorche.
Non, parce que je pensais que Xavier était le seul, mais
Non, mais il déteint sur moi, c'est terrible. Bientôt, je vais commencer à crier.
Voilà, peut-être un dernier.
Allez, j'en ai une dernière. Salut, j'ai beaucoup aimé votre émission spéciale Journée de la Femme. Ce serait possible de faire pareil pour les enfants. Merci, bisous, une jeune maman de Ambérieu-en-Béguet.
Eh bien, nous allons répondre en
disant que... On a déjà fait des émissions spéciales jeunesse.
Oui, à l'occasion des fêtes de Noël, par exemple, ou des vacances en tout genre, ou du sport, nous avez parlé des petits films d'animation pour les enfants, ou au cinéma.
Ou d'un film qui, en général, traumatise tous ceux qui sont venus, qu'ils soient rédacteurs en chef d'Animeland, Canal BD Manga, ou encore conservateur à la Cinémathèque de Toulouse, à savoir...
Le chat venu de l'espace.
Voilà. Bon, en Disney quand même.
Eh ben, jeune maman, voilà la réponse à ta question. Donc oui, on en fait et on en fera.
Voilà.
C'est tout pour aujourd'hui.
Merci. De Alpha et de suite une petite coupure musicale rien que pour introduire le dossier pour lequel nous avons fait venir professeur Thibault. Non, il y a un problème là, Thomas. C'est pas une spéciale Tarantino là aujourd'hui.
Mais oui, d'accord. Alors,
t'es pas en train de passer un morceau de musique là ?
Thank you.
Donc, la dernière fois que nous avons reçu Professeur Thibault, le générique de cette émission a été diffusé pour la première et, à ce jour, seule fois, en vidéo, d'ailleurs, sur grand écran, puisque c'était à la Cinémathèque de Toulouse qui nous recevait pour le Festival Extrême Cinéma.
Ah oui, c'était une bonne idée, d'ailleurs, un générique radio.
En vidéo, oui. Ben, cette semaine, Thomas a expliqué que, en fait, ça fait que depuis 3 ans et demi qu'il attend un sonore de ma part. Donc, il en a eu marre. Il a publié et il est disponible sur supplémentweekend.fr en home. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on l'a depuis un bail.
On va quand même désannoncer le morceau que vous venez d'entendre. Donc, oui, je t'ai donné référence d'ailleurs sur le CD. Ouais. Alors, ça, le morceau s'appelle The Lions and the Cucumber. Donc, les lions et le concombre. Par The Vampires Sound Incorporation, une bande son que nous retrouvons dans la BO de Jackie Brown, mais que Quentin nous a repiqué du film Vampiros Lesbos de Jesus Franco.
Oui, oui, c'est deux musiciens allemands en fait.
Vas-y, tu peux développer si tu veux.
Non, je connais pas tellement leur carrière musicale, mais c'est une des meilleures musiques de Jesus Franco.
Et voilà. Et on est là pour faire un dossier spécial sur Jesus Franco. Vampiros Lesbos, c'est un immense souvenir. Je me souviens d'une soirée qu'on a fait en 98 à la Cinémathèque.
Mais quelle mémoire!
Prisonnière des Martiens.
Ça nous rajeunit pas. Oui, un double programme, Prisonnière des Martiens et Vampiros Lesbos.
Prisonnière des Martiens de Inoshiro Honda. Donc, les filles qui s'évanouissent dans les bras des Martiens sans un bruit. Et moi, j'avais amené ma sœur avec un t-shirt. Il y avait marqué dessus Screaming Girl. Donc, elle s'en est souvenue de sa séance. Tout le monde l'a frappé. Et elle disait, ça ne marche pas! Tu vois, c'était assez drôle. Et c'est vrai que la deuxième partie, c'était donc ce film absolument impromptu. J'en avais entendu parler, Jesus Franco. J'ai vu un reportage sur lui qui avait été fait par Franck Priot sur Télé Toulouse en 93-94, si ouais. Je me souviens bien, lors de sa venue. Et là, j'ai vu une expérience, donc ce film, Vampiros Lesbos, où donc t'as des mecs qui gueulent dans la salle à poil! Et de l'autre côté, le projectionniste qui change toutes les 3 minutes de lentille de scope. Explique-nous!
Non, il y a concernant la projection, je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais voilà, mais c'était une soirée c'était une soirée phénoménale. Je sais pas si c'est le meilleur film pour entrer dans l'œuvre de Jess Franco. En tout cas, moi j'aime beaucoup le film, c'est un truc complètement foutraque, complètement anar, c'est une espèce de c'est un Dracula au féminin
dans la légende, voilà. En plus grecque, c'est-à-dire que les vampires sortent quand il fait très chaud en plein jour, justement quand les hommes n'osent plus sortir, hein. C'est ça l'histoire c'est ça le
ouais,
vampire
ouais, ouais,
en
mais
plus
c'est,
pour
c'est,
les crétois.
Ouais ouais, mais c'est en plus c'est typique de Jess Franco quoi, je veux dire voilà, ouais. Il fait un film de vampire, il faut forcément que ça se passe au soleil, il faut forcément que le vampire soit une nana
à
et
Istanbul,
de préférence hein. Qu'elle soit à poil.
Ça se passe à Istanbul.
Ouais,
sur la la plage pleine de sable parce que forcément il faut bon voilà.
Avec la sublime Soledad Miranda.
Qui voilà. Défunte d'ailleurs, la pauvre.
Ouais, qui est morte à 28 ans dans un accident de voiture. Et qui était promise d'ailleurs à une carrière où elle allait justement sortir un peu de l'ornière de ses petits films de série B, si on peut dire.
Alors c'est marrant parce que les deux personnages principaux du film, en fait, se rencontrent parce qu'il y a l'héroïne, bon, on en parlera après du film. L'héroïne en fait vient pour résoudre une affaire d'héritage auprès d'une comtesse qui se retrouve une descendante de Dracula d'après ce que j'ai compris.
Oui, c'est ça.
Et en fait elle se rencontre première réunion de travail en monokini sur à côté d'un lac ou d'une mer.
Oui, parce que c'est beaucoup plus agréable hein.
Voilà.
pour les yeux aussi.
Voilà. Donc c'est vrai, ambiance décontractée, il y en a qui prennent le café, d'autres qui se baignent. Donc c'est très bien.
Ah ouais. Mais voilà, donc typique de Jess Franco.
Alors déjà, première question qui n'était pas dans le conducteur. On dit Jesus Franco ou Jess Franco?
Jésus, il s'appelle Jésus Franco.
On dirait si plutôt Jésus.
Je précise qu'il est espagnol, c'est quand même un comble pour un espagnol de s'appeler Jésus Franco. C'est voilà, on est déjà prédestiné, je pense, à quelque chose.
C'était dans l'interview de TLT d'ailleurs, il disait qu'il a toujours été traumatisé par le fait de porter le nom du sauveur. Et le prénom du sauveur et le nom du général.
Ah oui.
Ça m'avait beaucoup
fait. C'est quelqu'un qui a connu la guerre civile en plus.
Voilà, oui, mais c'est ça. Hein, c'est-à-dire que lui, il est né avant l'avènement de Franco.
Ouais, il est né en 1930.
Alors, première question concernant ton rapport personnel avec la filmographie de ce bonhomme. À quand remonte ta rencontre avec son cinéma et est-ce que tu l'avais déjà rencontré
personnellement?
Oui.
Non, moi je l'ai jamais rencontré personnellement. J'ai essayé de le joindre plusieurs fois au téléphone, mais je l'ai jamais rencontré. Ceci dit, j'aurais pas su quoi lui dire en fait. Il y a tellement de films.
J'aime beaucoup ce que vous faites.
Il a réalisé. Il a pas passé la barre des 200.
Non,
il s'est arrêté à 199.
Ouais.
Voilà. Ouais. Voilà, il est mort sur le 199e. Et le rapport, bah, moi j'ai découvert ça en vidéoclub. Voilà, voilà, à la grande époque, aux glorieuses de la VHS.
Et sur les 199 films, tu en as vu combien
à peu près ? Je sais pas, peut-être une centaine. Je sais pas.
C'est, oui, quand même.
Oui.
Je pense, parce que c'est très très difficile. Maintenant, je les confonds un peu tous. Des fois, je reprends des bouquins que j'ai pour recadrer.
C'est vrai que c'est pas évident.
C'est pas évident parce qu'il y a, parce qu'il existe plusieurs versions, des fois, du même film. Voilà, j'ai certains films en trois versions différentes. Et puis surtout, sa période dans les années 70.
C'est, ouais, c'est ce qu'elle a à dire, c'est surtout dans le fin des années 60, toutes les années 70.
Quand, bon, c'est, quand c'est devenu complètement déconstruit. Ouais. Alors, il y a une légende qui dit que, je sais pas si c'est vrai, hein, qui dit que Jess Franco pouvait tourner trois films à la fois, qu'il a eu fait. Voilà, qu'il tournait trois films à la fois et sans mettre au courant
voilà, les acteurs.
Les acteurs, le producteur... Enfin, toutes les personnes qui travaillaient sur le film. Donc, c'est vrai que, voilà, on se retrouve des fois avec des scènes d'un film qui pourrait appartenir à un autre, etc. Donc, c'est très, voilà, c'est une espèce de puzzle complètement, complètement invraisemblable.
Parce que
je sais pas si c'est vrai. Deux, il l'a fait, ça c'est sûr. Voilà, je suis sûr qu'il a tourné deux films en même temps, sans prévenir les gens, avec le même casting et pour le même projet.
Vampiros Lesbos, ça se voit justement parce que les problèmes de scope, c'est qu'il utilisait du matériel différent, il filmait en fait par période, quand il avait la caméra, il en profitait pour faire des bouts de films à côté.
Quoi. Ouais, oui, c'est ça, c'est complètement anarchique. Quoi. Lui, il faisait ses films très 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 vite.
On pourrait dire que c'est Gonzo ou non ?
Quasiment, ouais. À certains moments, où peut-être.
Il y a quand même un boulot de mise en scène, quoi.
Oui, il y a un boulot de mise en scène, mais il y a des fois où il est, on va dire, à peu près concentré sur ce qu'il fait. Et puis, il y a des fois, il en a rien à foutre, voilà, il faut dire aussi ce qui est.
Et si on pouvait définir le cinéma de ce bonhomme-là pour donner envie à des gens qui ont ou pas donné envie, d'ailleurs, pour découvrir sa filmo, avant d'aller dans les détails de sa vie ou de sa carrière.
Je peux le faire en deux mots. Femme nue.
Très important.
Pas forcément.
Non, pas dans sa première période.
Mais voilà, c'est plutôt des périodes en fait.
Voilà,
il y a une période qui est fin années 50
jusqu'à ses premiers films en couleur. En
fait. Ouais, jusqu'à ses premiers films en couleur où là par contre c'est très carré en fait. C'est du cinéma de genre très carré avec avec beaucoup d'audace en fait puisque si on regarde l'horrible Docteur Orloff. Qui est un remake de Les yeux sans visage de Georges Franju, qui est un hommage plutôt. Si on écoute la bande son par exemple, ça se faisait pas du tout à l'époque d'utiliser du free jazz là-dessus, de balancer du free jazz sur des scènes plus ou moins horrifiques qui font un peu sourire maintenant évidemment. C'est un petit peu désuet, mais voilà, donc on retrouve déjà le ce côté super audacieux qu'il y a au tout départ de sa carrière, mais reste que ses films sont carrés, voilà. Que ce soit le sadique Baron von Klaus, soit l'horrible Docteur Orloff.
Oui, et d'ailleurs dans ces films, ce qu'on peut remarquer, c'est que il y a très peu de femmes nues, c'est-à-dire on voit même pas de paire de seins, quoi. C'est très très rare. Hein. Mais par contre, dans ces films, dans cette première période, il a une particularité, c'est de filmer les enfants. Vous vous écartez du poste, c'est de filmer les fesses. Pour cela, je pense qu'il a un petit peu inspiré des pornographes tels que Stagliano. À mon avis.
Oui, c'est vrai qu'il est très, il est très branché fessier.
Voilà, parce que dans sa première période, c'était un petit peu plus, on pouvait montrer moins de choses, c'était quand même une autre. C'est crypté.
Tu fais vachement bien Canal+.
Les scènes de cabaret aussi.
Et ouais.
Alors il y a toujours cette espèce de virgule, appelons ça comme ça, pour faire souffler le spectateur. On va avoir une scène de cabaret, mais c'est un truc qui était récurrent aussi à l'époque. Voilà, mais peut-être lui aime bien filmer ses scènes de cabaret entièrement plongées dans le noir. Il y en a une magnifique dans Vampiros Lesbos d'ailleurs.
Et d'ailleurs c'est le morceau qu'on a entendu tout à l'heure.
Ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'il va filmer sans prévenir. Ceci dit, ça tombe après de manière assez incongrue. On va se retrouver boum.
Une petite entracte
tout à coup sur une scène, voilà, plus avec tard. un petit numéro de musical, de préférence érotique bien
évidemment. En tout cas, on parlait des deux actrices de ce film-là. Voilà, on les voit sous toutes les coutures et intégralement. J'ai rien dit de vulgaire. Parce que du sport disait que il filmait pas les seins, mais s'il y a des amateurs de poitrine qui nous regardent, non, il faut quand même les rassurer, quoi.
Non, c'est la première période, c'est les années 50, fin 50, 60, il y a encore beaucoup de censure.
même dans les pays plus libérés par rapport à l'Espagne, ouais. Mais quand même, bah, il y a des choses qu'on montre pas.
Mais attends, comment il a pu?
Donc c'est plus dans la suggestion, c'est dans la suggestion quoi que, ah oui, que oui. Ça se passe. Quoi.
Comment il a pu vraiment... en pleine Espagne franquiste, qui était quand même une dictature extrêmement prude, que à côté Frigide Barjot, c'est une putain de délurée et homophile.
C'est
mais
vrai.
comment il a pu tourner justement ce genre de film dans les années 50-60
en Espagne
dans la péninsule ibérique.
C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que lui, c'est simple, l'Espagne censurait tout ce qui était politique.
Ah, c'est uniquement
si c'était du film d'horreur, si c'était du
ça
film,
ça défrayait pas la
érotique en plus guillemets, ça passait.
L'église, ça la défrayait pas?
Il y avait quelques petits problèmes avec l'église bien sûr, mais du moment que c'était du moment que c'était politique, ça passait pas. C'est ça qu'il faut bien se dire. C'est pour ça que Paul Naschy aussi, voilà, qui était un culturiste en fait, qui est devenu acteur de cinéma et qui a interprété un personnage de loup-garou, qui a fait une série de 12 films, je crois, avec ce personnage-là, étaient des films qui étaient beaucoup plus durs que ce qui se faisait dans le reste de l'Europe, que ce soit en Italie, en France ou en Angleterre.
Donc il suffisait qu'il y ait une portée politique, comme par exemple les films, la série des films des Charlots, pour que ça ne passe pas.
Mais exactement, dès qu'il y avait, dès qu'il y avait, que ce soit dans une comédie, un polar, etc., une référence politique, ça ne passait plus. Voilà, c'était le veto de Franco, quoi.
Ils ont dû se faire plaisir quand même, les censeurs, à l'époque.
À être obligé de regarder tous les films.
Ouais.
Et c'est pour ça que Franco a quitté l'Espagne. Voilà.
Ah, mais il pouvait pas se faire censurer.
L'auteur et pas l'autre.
Oui, l'autre il l'a pas quitté. Oui. Hein. Il était bien, il est resté, il faisait chaud, voilà, c'était pas cher, donc il a décidé de rester.
Et alors il est parti où?
Franco est parti, il est parti un petit peu partout. Il est parti en France, il est parti en Suisse. Il a fait beaucoup de trucs en Suisse et en Italie pas trop. Avec les Italiens a priori ça accrochait pas trop.
Déjà,
hein.
C'est bizarre parce que dans ces films on peut voir de jeu sur les drapés cette couleur rouge, c'est très très italienne en fait.
Oui, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose de latin, bien évidemment. C'est quelqu'un qui est très 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 latin quoi. Plus par dessus tout ça, cette espèce de personnalité. Moi j'ai l'habitude de dire que plutôt c'est une force anarchique comme ça. Qui conçoit les choses un peu selon lui, mais à l'époque c'était les films qui ça passait, je veux dire, il y avait un mode de production qui faisait que pour les films que faisait Franco et d'autres cinéastes, je veux dire, si on montrait une paire de seins, si on filmait des fesses, s'il y avait un docteur démon, on avait 2-3 scènes pseudo-gore, producteur lui il était content, hein, ça passait. Donc après Franco faisait ce qu'il voulait.
Il y a un peu de masochisme aussi.
Alors, il y a carrément du sadisme, ouais. Parce qu'il a fait la Vénus en fourrure, qui est un classique, a été adapté maintes fois. Et ce qui est impressionnant, c'est ce rapport finalement au free jazz, puisque le protagoniste principal est un joueur de free jazz. Tu parlais tout à l'heure qu'il était le premier à avoir mis des scènes horrifiques avec un groupe de free jazz. Moi, ça m'a fait penser, bien après, hein, au viol du vampire de Jean Rollin, lui aussi décédé. Ils étaient au bout d'un moment amis, ils ont été fâchés après le lac des morts vivants.
Ah oui, il y avait de quoi, oui. Oui, il y avait de quoi.
Est-ce que ça veut dire justement que cette production bisseux à fond, horrifico-sexuel, était très lié finalement à un genre musical?
Chez Franco, oui, parce qu'à la base c'est un musicien. À la base c'est pas un cinéaste, c'est quelqu'un qui a fait des études de musique, qui s'est intéressé au cinéma après, qui est venu après. Mais la base de Franco, c'est la musique. Et c'est un grand jazzman. Il y a des albums solo que vous pouvez trouver sur le net. C'est un très 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 grand jazzman.
C'est lui qui signe les lignes de...
Il a, je pense qu'il n'est pas l'acteur. Ouais, mais il a dû. Alors ça, après, il faudrait vraiment creuser, mais je pense que oui.
Il a dû
quelques fois, ouais, même signer la musique de certains de ses films. Il a dû le faire.
Il était trompettiste.
Oui, et d'autres instruments puisqu'il a fait le conservatoire, donc il savait pianoter, trompeter et peut-être guitarer.
Mais il savait faire beaucoup de choses, puisque donc il était scénariste, il était réalisateur, il était monteur, il était éclairagiste.
Il signait la moitié générique avec des pseudos différents, en fait.
Avec des pseudos différents, ouais. Mais tout comme ses films, parce que c'est que, je sais pas, je crois qu'il y a, c'est l'année 72 ou 73, quelque chose comme ça. Je crois qu'il y a 10 films. à sa filmographie. Donc, faut essayer d'imaginer la rapidité et le jument foutisme. Hein.
Ça va. Non, mais c'est plus rapide que tellement vrai. Ou,
Mais en même temps, si tu maîtrises tout, tu peux. C'est toi qui fais tout, donc tu peux aller vite.
Ouais, mais c'était aussi. Il y avait.
Mais je suis pas sûr que les journalistes de TF1 soient aussi bons, tu vois, pour les trucs de divertissement.
Je veux dire, il faut bien se dire que c'était quelqu'un qui tournait ses films. Il tournait et ensuite il laissait ses films pour la post-production. Il s'en foutait royalement.
D'ailleurs, le montage et tout ça.
C'est pour ça
qu'il y avait autant d'inserts.
Donc on explique
un peu, hein,
c'est
les
pour
inserts.
Ça que les versions aussi.
C'est qu'on retournait avec d'autres acteurs, des scènes plus cul.
C'est arrivé, qu'il y a eu, comme lui a fait sur des films d'autres personnes et comme certaines personnes ont fait avec ses films à lui, avec, les fameux inserts, des films qui étaient érotiques qui sont devenus pornographiques. Et puis c'était un système qui faisait que si on regarde une version anglaise d'un film de James Franco des années 70 et une version française, je dis pas que l'histoire est relativement différente, mais en tout cas il y a de grandes différences, quoi. D'ailleurs c'est quelqu'un qui a abandonné son truc et il y avait donc un monteur qui faisait son truc, enfin son bout à bout, parce que finalement il y avait pas beaucoup de matériel à utiliser. Et ensuite, les pauvres gars qui faisaient les doublages se retrouvaient avec des fois un synopsis. D'accord. Il n'y avait même pas de continuité dialoguée. Ils se retrouvaient avec un synopsis. Et acteurs qui doublaient à se démerder pour essayer de donner du sens à tout ce fatras. Et chez Franco, je vous garantis que c'est pas gagné. Quoi.
Qu'il aimait
c'est pas gagné.
Il voulait tourner des films, après ils s'en moquaient un peu.
Oui,
en tournait 10 dans l'année,
c'est l'énergie de tourner, de travailler tout le temps.
Alors aujourd'hui, on est en 2013, la personne qui connaît pas du tout Jesus Franco, bon, déjà pour apprécier ses films, il faut quand même, je pense, être amateur un peu de ces cinéma bis, cinéma un peu déviant déjà à la base.
Ouais.
Toi, si tu devais donner envie à des gens qui connaissent pas sa filmographie, ou peut-être en 3 films par exemple, des films marquants ou même plus, comment on pourrait vraiment dire qu'est-ce que lui faisait à l'époque qu'on voit plus aujourd'hui? Est-ce que c'est une façon d'exprimer la sensualité? Est-ce que c'est le son casting de deux femmes qui était absolument superbe? Est-ce que c'est cette violence, cette notion de vampirisme qui est plus traitée aujourd'hui,
Anti-Twilight? Des titres de films, moi je dirais l'horrible Docteur Orloff.
Ouais.
Voilà, qui est un peu
première période, mais excellent film.
Qui est un peu la base de tout, de cette première période, tout du moins.
Ça, c'est du noir et blanc, ça.
C'est du noir et blanc, démarquage hommage aux yeux sans visage.
Et au cinéma français de cette époque.
Et au cinéma français aussi de cette époque. Voilà, très très bien fait, superbement éclairé. Après, il y en a un, moi, qui me plaît beaucoup et qui me fait bien marrer, qui est la Comtesse Perverse.
Ouais.
Alors qu'il y a un autre hommage, parce que Franco est aussi un fin cinéphile, qui est un hommage aux Chasses du Comte Zaroff. Et encore une fois, c'est un film solaire, sauf que là, c'est la Comtesse Perverse, c'est Alice Arno qui galope toute nue dans la pampa avec son arc et ses flèches, et qui galope après des hommes qu'elle capture et qu'elle dévore. C'était une histoire aussi de cannibalisme.
Alors pour paraphraser du sport qui cite souvent cette phrase-là, à l'époque c'était que du naturel. L'anatomie.
Pour le coup, il y a que du naturel. Mais ce qui est intéressant dans le cul chez Franco, c'est que plus il avance dans sa carrière, c'est pas le cas des derniers films qui pour moi sont assez catastrophiques. Mais il y a toute cette période des années 70 où ça devient quasi abstrait, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui adore le zoom. Et alors dès qu'il peut zoomer, sur une paire de fesses ou sur une foufoune, il adore ça. Mais il va pas faire le point, et c'est voulu.
c'est pas des caméras qui ont le zoom automatique, au point automatique.
C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des choses complètement floues.
Il faut laisser l'imagination travailler.
Et cette passion aussi pour qu'il a eu pour Soledad Miranda, qui malheureusement est décédé au fait de sa carrière. Et juste après Soledad Miranda va arriver celle qui va rester d'ailleurs sa compagne jusqu'à la fin de sa vie.
Et sa femme même. Ils sont mariés très tard.
Ouais.
Ils sont restés ensemble.
Donc Lina Romay. Qu'il a filmé dans des tonnes et des tonnes et des tonnes de films. Et il n'a pas arrêté. Lina Romay avait une particularité. Alors pour une actrice, évidemment, c'est super. Elle était totalement exhibitionniste. Et donc lui, il adorait la filmer. Donc je trouve que c'est une magnifique histoire d'amour. Parce que ça s'est parfaitement complété, en fait. Ils se sont trouvés l'un de l'autre. Et ils sont restés jusqu'au bout ensemble, quoi. Lina Romay est décédée aussi il y a 3-4 mois. Voilà. En fait, il ne lui a pas survécu.
D'accord. Alors, aussi improbable que l'apparition d'Orson Welles dans le film Ed Wood, Jesus Franco, on le retrouve en tant qu'assistant réalisateur.
Eh, tu me piques ma question.
Oui, mais toi, t'étais en train de te réabreuver en vain. Alors, on le retrouve au casting de Falstaff.
Oui,
que Orson Welles a tourné en Espagne.
C'est Welles qui l'a demandé comme assistant.
Ah oui,
c'est
carrément.
Oui, oui, c'est après la vision de, je crois que c'est Cartes sur table, qui était un thriller, enfin,
alors, d'accord.
Un thriller fantastique.
D'accord, alors dans ce cas-là, on fait une pause. On va parler de Cartes sur table. Donc, il reprend en fait Eddie Constantine, qui avait tourné dans Alphaville. Mm-hmm. Et Cartes sur table, c'est une espèce de suite officieuse, hein, finalement, du film de Godard. Mais ils connaissaient.
Je sais pas s'ils se connaissaient. En tout cas, je pense que Franco appréciait Godard.
Parce que c'était juste enfin, un an après, quoi.
Apprécier cette période, on va dire, où Godard faisait encore des films qui se tenaient à peu près, quoi.
Non, parce que là, il le fait même pas un an après. Et bah c'est
ouais,
le même.
Fait, mais le film est écrit par Jean-Claude Carrière, hein. Voilà, Jean-Claude Carrière, et qui est un scénariste après qui va avoir une super carrière, voilà, avec plein de grands metteurs en scène et qui va tourner avec Polanski, voilà, etc., etc. Donc c'est Welles donc qui va vraiment choisir et je sais qu'il y a la production n'était pas du tout d'accord et dit non on va pas prendre ce cinéaste pour vous servir d'assistant Mr Welles c'est pas possible donc lui a voulu absolument avoir Jess Franco alors il paraît que ça s'est très 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 bien passé.
Alors moi j'avais lu sur un article qui m'a servi à préparer l'interview qui sur Nanarland où il disait apparemment que le tournage a eu des montagnes russes puisque Franco a dû aller prospecter un nouveau financier pour sauver le film. Il avait fait sans avertir Orson Welles qui du coup donc il a sauvé le film mais Orson Welles lui en a voulu parce qu'il était vexé. Donc
ouais,
du coup il l'a pas crédité.
Ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. C'est un peu dur mais c'est je enfin c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Effectivement, toutes les sources indiquent que cette anecdote est véritable.
On a vu dans sa filmographie, il y avait des Fu Manchu aussi.
Oui, 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 avec Christopher Lee.
Oui.
Il a tourné avec Christopher Lee. Alors, Christopher Lee a dit beaucoup de saloperies sur Franco avant de se rétracter. Il s'est rétracté à un moment donné, voilà. Et finalement, il est très content d'avoir fait ce Dracula. Puisqu'il y a, je crois que le film date de 70, c'est Les Nuits de Dracula. Donc, qui est l'adaptation la plus littérale d'ailleurs de qui est une adaptation, la plus littérale, la plus fidèle de l'œuvre de Bram Stoker. Parce que Dracula n'a jamais été adapté, sauf peut-être le Coppola.
Oui,
mais avant, voilà, il y a eu le geste Franco, donc qui présente un Christopher Lee moustachu d'ailleurs, comme les Dracula dans le bouquin. C'est jusqu'à ce jour, c'est l'adaptation la plus fidèle. Voilà. D'accord. C'est un film un peu raté, qui est un peu mou, qui est au mieux Vampiros les
Spies. Mais
non mais ça permettait également à Christopher Lee de casser avec son personnage de Dracula dans les Hammer.
Oui 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 mais c'est pour ça je pense que c'est pour ça que Lee a accepté. C'est ça permettait aussi à Lee de travailler hein parce qu'il faut voilà c'est des voilà il y avait pas des Peter Jackson tous les jours hein. Donc ça permettait aussi à ces acteurs qui ont eu une très dure période au début des années 70 qui étaient un peu voilà ils trouvaient plus trop de boulot parce que ils appartenaient voilà à une longue période.
Un James Bond au cas où.
Ouais.
Mais explique-nous quand même. Alors là, c'est à part parce qu'il a fait que les quatrième et cinquième hein, des Fu Manchu. Fu Manchu, je les regarde de temps à autre sur Cinéfix. Je dis pas ça parce que les programmateurs de la chaîne nous écoutent. Mais c'est quand même pas si pourri que ça comme film. Par contre, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment on a pris un Anglais pour jouer le rôle d'un meurtrier chinois.
Bah parce que ça, je alors ça peut paraître. Rigolo entre guillemets aujourd'hui, mais je pense que c'est tout simplement un hommage. Déjà, il y a un nom au générique, c'est le premier truc. Voilà, ça va permettre de d'avoir un peu de rentabilité. Et après, je pense que c'est directement un hommage au serial américain des années 30 et 40 où on n'employait pas d'acteurs. Voilà, on n'employait pas d'acteurs chinois. Mais on a envoyé un bon américain et voilà, on lui mettait du scotch là.
Christopher Lee, il a un nom chinois d'ailleurs.
Voilà, mais ce qui est extrêmement drôle parce que du coup, il y a cette espèce de décalage de second degré qu'il y a toujours chez Franco. Hein, il y a énormément d'humour dans les films de Jess Franco. Hein. Il y a des gags comme ça dissimulés qui sont à mourir de rire.
Ceci dit, il y a un film très très récent qui est sorti sur les écrans dont nous avons parlé dans cette émission qui est Claude Atlas d'ailleurs où tout le casting en fait passe au maquillage sud-coréen dans le film au moment donné.
Oui, c'est vrai, ouais. D'ailleurs, donc, comme quoi on n'est pas éloigné.
Si tu l'as vu d'ailleurs, qu'est-ce que t'en as pensé?
Non, malheureusement, je l'ai pas vu.
D'accord.
Mais ça m'intéresse.
Il attend qu'il rentre dans le soc de la cinémathèque de Toulouse.
Ouais, quasiment.
Ouais. Bon, c'est mieux que choper les Divix.
On va respirer un peu peut-être.
Ouais, on va. Voilà, je prends le disque au hasard tel qu'il est et je crois que c'est Chet Baker, Sonny Boy. Vous n'écoutez pas FIP, c'est éphémère. Sonny Boy, interprété par Chet Baker et Ann Art Paper, extrait de l'album The Road. Thomas est absolument à fond. Réaction sur le petit oiseau d'Infested Grunt. Bon, soyons franco, faut-il les voir ou pas ces films?
Oui. Bah oui, bien sûr qu'il faut les voir.
Peut-être complètement foutraque. Moi, je dis oui. Même à la limite, les trucs les plus expérimentaux, pour une bonne soirée de cuite ou sous acide, voire après un match PSGOM, ça passe.
Mais oui, Franco, c'est intriguant. Voilà. On en voit un, on peut rester dubitatif, mais on en voit deux, on se dit, tiens, finalement, je vais peut-être y revenir. Et puis, on en voit trois et on se dit, ah ouais, tiens, c'est vraiment intéressant le truc là.
Et toi, ça t'est venu comment?
Bah comme ça, en fait, moi, je le premier que j'ai vu, je pense que c'est l'horrible Dr Orloff, hein, mais je suis pas sûr. Et puis c'est petit à petit où je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Ah oui, tiens, c'est oui, c'est pas mal.
On t'en avait parlé avant ou c'était
Oui, mais
t'es pas tombé dessus par hasard.
Bah, on m'en avait parlé avant, mais c'était absolument catastrophique. Hein. Faut ouais. bien dire que la réputation de Jess Franco avant, on va dire, le début des années 2000, est complètement catastrophique.
13h30, 13h30 sur Radio FMR. Donc, professeur Thibault est en train de nous dire comment il a pu collectionner les cassettes de Jesus Franco.
Alors oui, alors tu t'es venu nous parler de ton festival Extreme Cinéma la dernière fois ici. Et on t'avait posé la question, dans quelles conditions toi tu vois des nanars? Est-ce que c'est avec d'autres gens? Est-ce que c'est tout seul? Les Jess Franco, aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux peut-être les voir avec des potes, avec de la bière et tout, à consommer avec modération, un trip cinéma, tu t'en fais 2-3 d'affilée tout seul?
Bah, moi, je dirais que je peux les regarder avec, en général, je peux en regarder avec ma compagne, mais c'est quand même assez spécial. Enfin, je sais pas comment, c'est une question difficile, ça. C'est disons ce qu'il y a de bien si on avait là toute la filmographie de Jess Franco disponible, bah le truc c'est de piocher quoi, et ça pourrait donner du style, bah on fait une soirée des potes avec des potes et un peu de bière, et puis on voit un truc et là on se dit que c'est pas possible, on va arrêter au bout d'un quart d'heure parce que c'est insupportable, et on va être tout seul et on va voir quelque chose d'absolument formidable et on va se dire ah putain merde, si avec mes potes et un peu de bière j'aurais pu le faire. Alors c'est ça, c'est qu'on sait jamais sur quoi on va tomber. C'est je trouve que c'est fascinant pour un cinéaste, on sait jamais. Moi j'en ai arrêté au bout d'un quart d'heure. C'est plus possible de voilà, il y a des fois il a dépassé les limites, hein, et le film d'après on se dit ah putain, c'est quand même super quoi ce qu'il fait quoi.
Et quand tu te dis que c'est pas possible, même toi qui es cinéphile devant l'éternel et que tu programmes plein de films dans ton festival, qu'est-ce qui te fait dire à un moment donné que c'est pas possible?
Bah, je pense qu'il y a eu, cette période où il s'est retrouvé décalé tout simplement par l'âge et surtout la production et la diffusion. Au bout d'un moment, ces films, de toute façon, ne sortaient plus en salle, mais comme beaucoup d'autres cinéastes, voilà, ces systèmes de production. Qui fait que on avait un producteur qui voulait produire un film érotique et avec un cahier des charges comme je l'ai énoncé tout à l'heure, hein, 2 paires de seins, 1 paire de fesses, 3 scènes gore, et pour lui c'était bon, il en fallait pas plus. Ça s'est désagrégé, et le mode de diffusion s'est désagrégé puisque ça sortait plus en salle. Donc forcément, et puis il y a ce côté malheureusement, c'est ce qui arrive souvent, c'est à un moment donné, on dit « Ah oui, oui, c'est un auteur ». Alors, c'est vrai que c'est un auteur, mais des fois, je pense qu'il faut pas le dire. voilà, il faut les laisser encore œuvrer.
Et donc toi, tu te dis, quand tu arrêtes au bout d'un quart d'heure, c'est parce que tu vois qu'il a fait 150 fois déjà, ou parce que c'est mal filmé, parce que tu ressens rien, parce que c'est artificiel, c'est mal monté.
Surtout les derniers, je vais être super cruel, mais je pense que c'est il se fait un peu pipi dessus, quoi. Voilà, c'est plus moi ça m'intéresse pas après de voir deux bimbos américaines, voilà, à poil sur un canapé, avec Franco qui fait des coups de zoom, voilà, sur de la musique au maître. Là, je trouve ça, surtout que c'est filmé en vidéo, voilà, là, c'est un peu pathétique. À un moment donné, il avait trouvé des producteurs, c'était des fanzineux. C'était deux gars qui éditaient un fanzine aux États-Unis, le fanzine était pas mal d'ailleurs, hein, mais il s'était fait copain-copain avec Franco, et il produisait ses films, alors, il lui faut un système de production avec un producteur qui veut gagner de l'argent, pas des fans. C'est pas ce qu'il lui aurait fallu, je pense. Voilà.
Alors, question de Gene Bernheim, ex grand rabbin et diplômé de philosophie expérimentale, voire bidon. Est-ce que les films sont cachers?
C'est quoi cette question?
Bon, je m'attendais à un truc comme ça.
Alors, question complètement.
Ils sont pas chers.
Moi. voilà, c'était ce que je voulais. On sait que des fois, ils prenaient c'est ce qu'ils racontent sur Nanarland, hein, dans l'excellent article. Il y avait un excellent obituary aussi sur le The Guardian, qui est un peu l'équivalent de Libération, en Angleterre.
Oh, quand même pas, hein.
Ils disent que Jesus Franco piochait ses idées. En fait, il allait quand il allait dans les gares, il prenait les pulps, les BD pas chers, etc. Il piochait ses idées dedans. Alors cette année, deux héros de bande dessinée fêtent leurs 75 ans, à savoir Spirou et Superman.
Ils les font pas.
Est-ce que, d'après toi, non, c'est pas est-ce que, c'est imagine un film où il adapte officiellement un des deux, et tu n'as pas le droit de citer Superman 4. Je fais appel à ton imagination et à ton pouvoir de déduction de muséographe.
Oh, je pense que là, il y aurait du Wonder Woman.
Oui, 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 voilà. Voilà, ce serait plus de ce côté-là.
Ah, c'est Cotine avec des...
On serait plus du côté de Wonder Woman. Il a jamais fait de film de super-héros. Il a fait un film de karaté, que j'ai pas vu d'ailleurs, qu'il faut que je voie.
T'as le nom là.
Karaté par Jess Franco, ça risque d'être quelque chose de...
épique.
D'épique, oui, totalement.
Je pense qu'il va falloir faire une séance privée dans la salle B de la Cinémathèque, là. Il va falloir programmer ça un jour.
Alors, moi, je voulais juste rajouter quelque chose, c'est que, bon, ben, quand on parlait avant de la popularité de Jess Franco, c'est que les circuits de distribution, bon, en salle, tu disais qu'ils sortaient pas tellement en salle et tout, mais bon, on pouvait quand même voir ses films dans les années 60-70 dans les cinémas qu'on appelait d'art et essai. Oui, qui n'existe plus, hein. Bon, bah, ok, hein. Merci les gars.
Puis l'art essai aujourd'hui, c'est plus ça.
Mais c'est vrai qu'il y avait très très peu de salles, hein. C'était vraiment des trucs épisodiques, hein. Moi, c'est à cette occasion-là que j'ai pu découvrir Franco, hein. C'est en cinéma art essai. Mais il faut dire que il a eu, au milieu des années 80, on va dire, un regain de popularité parce que la VHS était là, est arrivée, et que ça a grandement aidé des réalisateurs comme ça, des cinéastes comme ça, bah, à pouvoir être vus, quoi, parce que, bon, bah, ni à la télé, ni au ciné, bah, on pouvait se les voir, du moins pas dans les circuits officiels.
Ouais, ouais, tout à fait, ouais, ouais, c'est complètement ça. Il y a eu la VHS, hein, après, il y a eu il y en a énormément, hein, qui sont sortis en VHS, hein. D'ailleurs, c'est assez marrant d'aller traîner sur eBay et de voir le prix de certaines VHS, voilà, signées Jésus Franco. Alors, c'est rigolo parce que des fois, c'est pas lui qui a signé les films. Voilà, c'était les distributeurs VHS des fois qui rajoutaient Jésus Franco, je sais pas pourquoi, hein, mais voilà. Alors maintenant, ça s'arrache, il y a des gens qui achètent 200 euros des cassettes vidéo signées Jésus Franco, c'est pas lui qui a fait les films.
Ils ne regarderont pas, puisque du coup, ça...
Alors, justement, on parlait de Vampiros Lesbos avec une projection qui était complètement anarchique il y a 15 ans à la Cinémathèque. C'était sous-titré, je m'en souviens encore, en flamand et en français.
Oui, tout à fait.
Est-ce qu'il y a encore possibilité de trouver les masters ou est-ce que d'après toi c'est complètement parti corps et bien enflammé dans les derniers délires d'Eurofrance?
Non, il y a beaucoup de choses qui ont été détruites, hein, mais depuis l'explosion du DVD, qui se sent très mal d'ailleurs aujourd'hui, et le Blu-ray, il y a là aux États-Unis par exemple, on commence à sortir les Jess Franco en Blu-ray.
En Blu-ray.
Ouais, oui, c'est un excellent label qui s'appelle Redemption et ils sortent les films d'Eisenstein et de Jess Franco.
Oh, alors, putain.
C'est marrant. Oh, putain. Et de Jean Rollin aussi. D'accord. Voilà, ils font un super boulot. Et il y a Succubus et la Comtesse Perverse, dont je ne vais pas résister à citer l'autre titre. Voilà, qui est Les Avaleuses.
Oui.
Alors,
ça fait, on va dans notre genre.
Ça tombe bien puisque Sushi vient d'arriver en studio.
On parlait de la Comtesse Perverse.
Oui, voilà. Vrai. Comment pourrait-on reconstituer en radio une scène typique d'un film de Jesus Franco?
Je sais pas. Il y a quelqu'un qui s'est imité le zoom.
Je vais jamais entraîner.
Et le flou. Je sais, mais si t'as plus le casque sur les oreilles, tu.
Le flou radiophonique, je sais pas.
Là, normalement, vous avez coupé les micros, là. C'est tout flou, normalement.
Ouais,
là,
c'est complètement flou.
Voilà, oui. Je rajoute le zoom, tu vois. Et puis voilà. Voilà, c'est un petit peu difficile. Et effectivement, ça va pas être très audible pour certains auditeurs en FM.
Mais voilà.
Pas du tout.
J'ai une dernière question. Vu que maintenant, il vient de décéder il y a quelques semaines, est-ce que tu penses qu'on va avoir droit justement à des rééditions, des coffrets DVD, Blu-ray?
Ouais, il y a déjà comme ça, beaucoup de choses qui existent en DVD. Je crois que c'est le cinéaste le plus diffusé en DVD.
D'accord.
Ah oui.
Ah ouais.
Quand même, je pensais pas.
Je crois, hein, je pense qu'il doit y avoir peut-être, je pense, une bonne cinquantaine ou soixantaine de films disponibles en DVD. Donc dans de bonnes copies. Donc le matériel est pas perdu. Puis les Blu-ray américains, là, moi je les ai, sont époustouflants.
Quoi. Est-ce qu'il y a des bonus?
Ah oui, il y a des, forcément. Donc il y a des interviews. Des scènes coupées. Il y a des scènes coupées. Ouais, oui. Mais c'est vrai, hein. Il y avait des scènes, voilà, des réservées, comme on dit, pour l'exportation. Il y avait des scènes habillées d'un côté, des scènes déshabillées de l'autre.
D'accord.
Alors toi, on va rappeler quand même que tu t'occupes du Festival Extrême Cinéma à la Cinémathèque. Pas que, je crois, d'ailleurs. Tu fais autre chose aussi.
Déjà, je travaille à la Cinémathèque. Ça, c'est déjà pas mal. Hein. C'est mon activité principale. Oui, après, il y a Extrême Cinéma que je programme, enfin que je coprogramme depuis 14 ans, je crois.
Ça fait ouais, pas loin. Ouais.
Oh là 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 là.
Il y a à l'origine, c'était les soirées le samedi soir. Maintenant, il y a les soirées Extrême Cinémathèque une fois par mois. La prochaine, c'est vendredi prochain.
Ah oui, 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 tout à fait. Où on passe les Monstres de l'espace. Voilà, de Roy Ward Baker, qui est pas un film de Jess Franco.
Quatermass and the Pit, exact. Dans le nom originel.
Voilà, et puis non, et après Mad, voilà, je gratouille dans Mad Movies.
La licence magazine.
Oui, le magazine, ouais, voilà, une fois par mois. Voilà.
Et justement, depuis le décès de Jess Franco, est-ce qu'on peut caresser l'espoir d'avoir un de ses films la prochaine édition?
Caresse l'espoir.
Oui, bah, t'as vu?
Oui, moi j'aimerais beaucoup passer, la Comtesse Perverse, voilà, alias donc les avaleuses.
J'ai retenu là.
Oh pardon. Attends, pardon. Non, je sais pas pourquoi il a disparu. C'est voilà. Tu as dû l'éteindre.
Micro
parce que là censuré. Il est ouais. Ah oh, pardon, excuse-moi. Vas-y.
Ah. Et pourquoi pas un double programme justement avec un noir et blanc et la Comtesse Perverse. Ce serait vachement cool ça.
C'est ce qui est prévu.
Ah. Et pourquoi pas un double programme avec deux films qui ont été tournés en même temps.
Ah, non, et diffusés en même temps.
Ah, ce sera presque ça. Je pense qu'on va rendre hommage à Eurociné, donc on va passer le Lac des Morts Vivants, qui a été le clash Jess Franco Jean Rollin d'ailleurs.
On rappelle quand même le script des Morts Vivants, c'est un réalisateur qu'on envoie tourner un film dans un village, dans le Poitevin, un truc comme ça. Donc dans un lac, il y a des SS qui sortent et qui viennent pour attaquer les villageois. Seulement, c'est les villageois eux-mêmes qui jouent le rôle des SS. Le maquillage n'est pas waterproof, quand ils sortent de l'eau, ils coulent. Et Jesus Franco a quitté avant le tout premier jour de,
alors, de tournage. Je crois qu'il a fait quelques plans en fait, mais il s'est barré.
Voilà.
Il s'est barré. C'est Rossigné qui a appelé Jean Rollin le vendredi soir pour un tournage le samedi.
Et tu as dit qu'il y avait de quoi qui se frite les deux. Qu'est-ce qui s'est passé en fait?
Bah, je pense que pas des cinéastes très proches, on va dire. C'est assez curieux parce que dans l'esprit ils sont très proches, justement, toujours avec ce côté un peu anarchique et quelque part presque la même culture au niveau sérial, littérature populaire, les Fu Manchu de Sax Romer, voilà, les pulp américains, le film noir. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses en commun avec eux, mais je crois que dans la manière de faire les choses, là pour le coup, c'est pas trop ça.
Ouais, voilà. Mais tu sais ce qu'on dit quand deux trottistes sont ensemble.
Ouais.
C'est exactement ça. Hein.
Ouais, c'est ça.
Fini à 20 ans.
Non, on va se faire censurer par le général Franco si on parle de politique. Alors, complètement à part, on a lu sur Internet, il y a une excellente interview, toujours sur le site Tannerland, c'était sorti il y a une dizaine de jours. Une interview, excusez-moi, du distributeur français de Sharktopus, à savoir Sébastien Hocher, qui est le patron de Program Store, et où en fait, il raconte que il distribue plein de films d'Eli Shouraki, Danny Boyle, et donc Roger Corman. Il parle aussi d'un film qui va bientôt distribuer, qui s'appelle One-Eyed Monster, où c'est l'histoire d'une bite tueuse, d'un acteur porno, etc. D'où ma question. Est-ce si Jess Franco aurait continué, est-ce qu'il aurait mieux
avec
pas valu oui. Est-ce qu'il aurait-il mieux pas valu qu'il produise des films
pour ça? Non, mais il a une...
Jesus Franco, est-ce qu'il valait mieux pas finalement qu'il tourne pour Sci-Fi America, voire pour AB1?
C'était portugais comme accent, ça.
Peut-être qu'il aurait mieux valu, mais enfin, je sais pas, mais de toute façon, il l'aurait viré. Je veux dire, le garçon est trop incontrôlable, c'est pas possible. Et puis de toute façon, chez Sci-Fi ou des trucs comme ça, je veux dire, c'est le téton est banni. Voilà, c'est du PG, hein, c'est pour tout public. Donc dans ces cas-là, pour lui, ça devient très difficile de s'exprimer. Et voilà, il lui faut de la fille nue, Jess Franco. Voilà, chose qui se fait rare au cinéma. Et s'il y en a, c'est des films qui marchent pas trop. Et puis sur les télévisions, ça part en troisième partie de soirée, parce que sinon c'est pas possible.
Si pas quatre.
Voilà, 6 pas 4, donc voilà. En tout cas, si vous voulez voir des Jess Franco, il y a Artus Film, un éditeur de DVD. Ils sont pas loin, ils sont à Montpellier. Il faudrait que vous les invitiez d'ailleurs une fois, parce qu'ils font un super boulot. Voilà, qui ont édité Vanishing Furs, Plaisir à 3 et La Comtesse Perverse. Je crois qu'ils vont continuer leur collection Jess Franco. Et puis après, voilà, il faut fouiller sur le net et il y a plein de trucs.
L'invitation est envoyée.
Ouais, on avait commencé à parler juste de l'extrême cinéma. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur la programmation ou la thématique de la prochaine édition, ou est-ce que t'as pas le droit du tout d'en parler?
Ah si, je peux en parler. Alors le prochain extrême cinéma, on va arrêter les conneries et on fait plus de thématiques en fait, parce que c'est trop fatigant. Parce que tout le monde nous dit ah c'est super et tout la thématique, et puis en fait y a personne ne vient. Alors on se dit que finalement on est peut-être mauvais. Non, on va essayer un nouveau truc, voilà, mais de partir sur une base plus classique en fait, voilà, avec hommage, rétrospective, invité, voilà. Donc il y aura un petit truc sur Rossiné. Je pense qu'on fera un petit truc sur Jess Franco. On n'a pas voulu le faire pour Extreme Cinémathèque parce que moi j'aime pas les hommages, j'aime pas rendre hommage aux morts, hein, voilà. Je trouve ça dommage, donc voilà.
Même un réalisateur de mort-vivant.
Ouais, mais ça me fait un peu chier que Franco soit mort, quoi. Donc je vais pas remuer le couteau dans la plaie, voilà. Puis il y a des gens, je pense, qui sont capables de le faire mieux que nous aussi, voilà. Ne serait-ce que vis-à-vis du matériel diffusé. Mais voilà, on fera un petit truc sur lui à ce moment-là. Et puis après, alors peut-être Jeff Lieberman, voilà, qui est le réalisateur de La Nuit des Vers Géants.
Ouais.
Et du Rayon Bleu.
C'est en deux mots, les Vers Géants ou
ouais, les Vers Géants. Ouais. Voilà.
Tu viens d'essayer de voir là aussi.
Voilà. 12h et 13h, pardon, et 16 minutes sur la poubelle de radio Super un week-end. On fait une petite coupure musicale qui annonce en fait la partie télé avec une série et une série d'horreur qui est illustrée par ça.
Dominique et Nick s'en allaient tout simplement. Oh Dieu, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. Il ne parle que. À l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois. Dominique, Nick, Nick s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Certains jours, un hérétique par des ronces le conduit, mais notre père Dominique par sa joie le convertit. Dominique, Nique, Nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Ni chameau, ni diligence, il parcourt l'Europe à pied, Scandinavie ou Provence, dans la sainte pauvreté. Dominique, Nique, Nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Enflamma de toute école, fils et garçons pleins d'ardeur, et pour semer la parole, inventa les frères prêcheurs. Dominique, Nique, Nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Chez Dominique et ses frères, le pain s'en vint à manquer, et deux anges se présentèrent portant de grands pains dorés. Dominique, Nique, Nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Dominique vit en rêve les prêcheurs du monde entier, sous le manteau de la Vierge en grand nombre rassemblés. Dominique, Nique, Nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Dominique, mon bon père, regarde-nous simples et gais, pour annoncer à nos frères la vie et la vérité. Dominique, Nique, Nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Je vous jure que Sœurs Sourires est effectivement dans la saison 2 en fait de American Horror Story qui passe en ce moment sur Ciné Frisson. Et on entend cette chanson 3 fois par épisode, sachant que les patients donc de cet asile de fous n'ont pas le droit d'arrêter le disque. C'est juste crisant au possible. Par rapport à la toute première saison, parce que moi j'étais fan et je le suis à mort. Donc en fait du sport il est passé, je lui ai montré ça, il en revenait pas hein, quand même. Hein. En VO, ça le fait un fou. Donc American Horror Story, Asylum, des nonnes, des fous, de l'horreur, des dépravés sexuels, des filles qu'on interne parce qu'elles sont homosexuelles, enfin bon, vous voyez le genre. Première scène de sexe à la deuxième minute, premier démembrement à la cinquième. Je me demande si par hasard ce serait pas du Jess Franco.
Là, vu comment tu le décris.
Bon, il n'y a pas de zoom partout et c'est pas des lumières flashy, au contraire, c'est un éclairage qui est
très
noir et blanc.
C'est un peu glauque, hein.
Ah ouais, à fond. Et par rapport à la toute première saison, ça montait très doucement ou au fur et à mesure, là c'est d'entrée, c'est t'as tout dans la gueule. Paf! Et surtout, rien à voir avec la première saison, mais la même distribution. Alors là, par contre, ça fait vraiment bizarre, mais c'est exactement les mêmes acteurs. Et là, franchement, gros pari et plutôt belle réussite. Sauf la maison qui a changé entre temps, voilà, c'est tout.
Du sport.
Oui, c'est moi.
Tu nous parles de programme télé à présent. Est-ce que tu nous as fait une programmation spéciale pour en lien avec de ce dont nous avons parlé avec professeur
Non,
Thibault.
non, parce que je me suis dit ouais, je pourrais trouver des trucs. Alors bon, est-ce que je fais que du film espagnol? Est-ce que je fais que du film avec des gonzesses à poil, enfin des trucs comme ça.
Ça aurait été sympa.
Je vote pour.
Ouais, et ça aurait été assez bref aussi, je pense. Et j'ai quand même regardé un petit peu quoi dans le enfin j'ai vraiment fouillé dans le programme de cette semaine, enfin la semaine qui va venir, pour savoir s'il y avait une diffusion quelque part, même en quatrième partie de soirée d'un film de Jess Franco. Eh bien, il y a nada, rien du tout.
Est-ce que moi je suis très attristé puisque j'étais passé à côté de la mort de Bigasuna, réalisateur espagnol, tout à l'heure tu nous as annoncé ça. Alors moi j'ai une anecdote personnelle concernant Bigasuna puisque en 2001, donc ça fait déjà le temps passe 12 ans, j'avais participé dans le cadre de mes études à la communication à la Cinémathèque autour de la de Cine España où il y avait Bigasuna qui était censé venir mais finalement il n'était pas venu et j'avais fait l'affiche pour sa venue, j'avais envoyé à son adresse perso, il m'avait répondu le mec. Donc voilà, c'était un petit souvenir ému en tant qu'étudiant. Je me souviens, j'avais dû me taper la filmographie en espagnol non sous-titrée du gars. Deux films par jour où il fallait que je fasse l'aller-retour avec l'Institut Cervantes pour aller chercher les films de Bigasuna en VHS à l'époque.
Oui, c'était avant que Thomas soit au supplément week-end.
Grand souvenir de découverte de Ramon, Bambola et Volvar et Runt. Comme ça, voilà.
Et Angoisse surtout, son film.
Angoisse, oui, oui.
Mais j'aimerais juste dire à la personne qui a écrit le petit article sur la mort de Jess de Bigasuna que ce n'est pas dans Ramon qu'on a découvert Javier Bardem.
Hein. Non.
On l'avait déjà vu dans d'autres films avant, les gars. Hein, d'accord. Bon. Il y a une série au programme inédite. Enfin, il y en a plusieurs, mais enfin, moi, je me focalise un petit peu sur celle-ci parce que ça peut très bien être une très bonne série. On découvrira. Mais ça peut très bien être une grosse merde aussi, quoi. Parce que quand on dit producteur Steven Spielberg, on se dit « Waouh, ça va être super, génial, magnifique et tout, quoi. » On se rappelle le 4400, que beaucoup de gens ont trouvé bien. Hein. Moi, personnellement, j'ai pas trop accroché, mais enfin bon,
tant pis. Du tout.
Et quand en plus, cette série est réalisée et créée par Oren Peli, qui est Oren Peli, le type qui nous a sorti Paranormal Activity, là, on commence à dire, c'est peut-être un petit peu moins bien. Ça s'appelle The River, et par contre, il y a Bruce Greenwood dedans. Bon, alors là, il faudra quand même jeter un coup d'œil, hein. Et Leslie Hope, donc ça va passer sur Syfy, me semble-t-il, la semaine prochaine. Je l'ai même pas noté, quoi, pour vous dire. Sinon, les films ce soir. Alors sur Arte, c'est pas un film, c'est un docu. Hein, c'est un docu dont Demis Broussos me parle. Depuis qu'il l'a vu il y a 3 ans, depuis qu'il est sorti, c'est le documentaire sur Lemmy. Vous connaissez tous Lemmy. Kilminster de son vrai nom.
Motorhead.
Voilà, ah. Motorhead, mais les Knight Riders au départ. Puis après, c'était ce groupe de...
Hawkwind,
voilà, c'est ça. Après, c'était Hawkwind avec leur super tube Silver Machine, entre autres. Hein, et leurs nombreuses participations avec Michael Moorcock, parce qu'ils étaient vachement branchés dans
à fond, ouais.
Les trucs hallucinogènes et les trucs un petit peu zarbi, quoi. Donc voilà, c'est donc ce soir à partir de 23h25, parce qu'avant il y a dans la case histoire un excellent documentaire reconstitution. Hein, ils font ça très très bien maintenant, ils achètent des trucs vraiment bien sur Arte. Et là c'est consacré à l'histoire de Charlemagne. Donc hein, c'est pour les gens que ça intéresse. Donc ce soir il y a également sur Ciné Plus Star un spécial Tim Robbins avec deux excellents films de lui. Tout d'abord le film de des frères Cohen Le Grand Saut ou Hudsucker Proxy. Alors bon bah allez traduire ça en français. Eh ouais, non, parce que c'est vraiment un truc incompréhensible. Il faut vraiment connaître la culture américaine à fond les manettes pour savoir ce que ça veut dire. Mais il y a Jennifer Jason Leigh dedans, il y a Paul Newman et tout, un de ses derniers rôles en plus. Ah ouais. Et après, le film de Tim Robbins, Bob Roberts, quoi, qui est un... C'est un chef-d'œuvre, ce film, pratiquement. On peut pas dire que, techniquement, ce soit un chef-d'œuvre, mais le film, l'histoire, le scénario, les acteurs, c'est carrément énorme. Hein.
Moi, je l'ai adoré dans Les Évadés en tant qu'acteur.
Ah non, mais si t'as jamais vu Bob Roberts, là, tu vas comprendre.
C'est un faux documentaire.
C'est un faux documentaire sur un type qui veut être gouverneur ou président, je crois. Gouverneur d'un État américain. Mais il va jouer sur pas la fibre politique, mais sur la fibre populiste, quoi. Mais c'est énorme, hein, c'est carrément énorme, quoi. Bon, il y a également ce soir sur Ciné Plus Club Death Wish 2.
Magnifique.
De Michael Winner. C'est vraiment une grosse boost par rapport au premier, mais la musique est de Jimmy Page. Voilà, c'est pour ça qu'on le voit.
Jimmy Page dans un film noir.
Ouais.
Il fait que la musique. Hein,
Fait que la musique. Il avait été pressenti pour faire la musique du 1. Mais à l'époque, en 72-73, Led Zepp cartonnait à fond les manettes, donc ils n'avaient pas le temps. Et en plus, il était engagé avec un autre mec pour lui faire la musique de son film. C'était le film de Kenneth Anger, Scorpio Rising. Musique qui n'a jamais fait d'ailleurs. Ils se sont fâchés à cause de ça. Kenneth Anger était venu habiter chez Jimmy Page et tout. Mais bon, ça s'est assez mal passé, on va dire. Ils partageaient des trucs communs, hein, c'est-à-dire le satanisme et tous ces trucs-là. Mais bon, au niveau boulot, c'était pas top, quoi. Donc voilà. Sinon, demain sur Arte, La Guerre des Mondes, mais en deuxième partie, tu vois, un documentaire sur l'éco-cité, New York en l'éco-écologie cité, hein, d'accord, New York en l'occurrence, et en deuxième partie, donc, ce grand classique, La Guerre des Mondes de Byron Haskins, avec Jean Barry, avec Anne Robinson, bref. Ou alors là, c'est une soirée Polanski, tiens, tu parlais de Polanski avant, une excellente soirée Polanski demain soir sur Ciné Plus Classique avec, à 20h45, Répulsion, Catherine Deneuve. Alors, celui-là est vraiment bien. C'est le film qu'il a fait découvrir, hein, c'est son premier film, non polonais, je crois, hein, si je me trompe pas.
Ouais, c'est ça.
Et ça a été une grosse claque. Et Récidive l'année suivante avec Cul-de-sac. Les deux films sont projetés l'un après l'autre. Donc Cul-de-sac, c'est marrant parce qu'il y a la frangine, quoi. Françoise d'Orléac, quoi. Mais Cul-de-sac est plus anglais, que Répulsion. Répulsion est tourné, est censé se passer à Londres, en Angleterre. Mais ça fait quand même européen, on va dire. Alors que Cul-de-sac est nettement plus anglais. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Hein,
oui, complètement.
D'accord. Dans l'esprit, hein, je veux dire. Voilà. Toujours demain sur Polar. Ah bah voilà, vous avez des doubles programmes qui sont excellents quand même. Demain sur Polar à 21h, Cleopatra Jones de Charles Boyle avec Tamara Dobson et Stella Stevens, et à 22h30 Dynamite Jones de John Sterrett en 73. Donc bon double programme, hein, pour deux films de Blaxploitation qui sont pas dégueulasses du tout. Lundi sur Paris Première, dans la deuxième partie de soirée, c'est la case en ce moment, Russ Meyer. Ah, et là on a Ultra Vixens, on peut s'en passer, hein, franchement.
Vous verriez les yeux pleins d'émotion du professeur Thibault.
Ah, mais on dirait qu'il se les a fait
professeur Thibault, quand je lui dis quitte Natividad, lui, ça lui parle.
Ah oui.
Tout à fait.
Qui a été la femme de Russ Meyer.
Ouais, qui a joué dans Mega et dans Ultra, d'ailleurs. Et qui à un moment...
Mega est meilleur qu'Ultra.
Ah, le Mega est mieux, hein.
Ah oui, je suis d'accord.
Il n'y a pas photo, hein, de toute façon, quoi.
Je confirme. À grand coup de sopalin,
on va les laisser, hein. Il y a un créneau après.
Ensuite, toujours lundi, sur D8 à 22h30, Today You Die, de Don E. Fauntleroy, ça te parle aussi, hein, 2005, donc, avec Steven Seagal, Trish Chris, qui était un des membres de Naughty by Nature, et Nick Mancuso, qui est le patron des méchants dans Rapid Fire, celui qui veut descendre Brandon Lee, quoi, mais qui arrive pas, quoi.
Oui, Nick Mancuso, oui, on se souvient.
Hein, Stingray. Oui. Ouais, Stingray aussi, oui. La série, quoi.
Vous verrez les yeux.
sur Syfy, lundi.
Rapid Fire, attends, c'est culte, hein.
Non, comme les programmateurs de... Ah bah non, c'est pas Syfy, c'est FX, merde. Bon, tant pis, je me suis pas... sur Syfy, lundi à 20h45, bon, Metal Monsters. Si vous n'avez pas assez de pognon pour faire Transformers, vous faites Metal Monsters. C'est de... Paul
ah, mais
Diller.
Attends, c'est pas un film de... Mince, là, les productions ultra fauchées, là. Ah, j'oublie.
Non, pas vraiment, quoi. C'est
Millennium.
C'est du DTV, quoi, c'est tout.
Je pense, hein, que ce soit Millennium.
Alors, c'est assez récent, c'est de 2011, c'est de Paul Diller, c'est un mec qui a également réalisé pas mal d'épisodes de la série Painkiller Jane, bon, on n'aime pas, et le magnifique Stonehenge Apocalypse. Avec Kevin Smith et Nicole Debourg. Pas mal.
Stonehenge capitaliste. Stonehenge, voilà. Apocalypse, qui sera rediffusé au moins 3 ou 4 fois cette semaine sur France 4.
Et qui a diffusé au moins une quinzaine de fois dans les 3 derniers mois.
Je sais, c'est la blague.
Non, c'est pour ça que je le cite. Hein. Sur Ciné Plus Premier, toujours lundi, La Défense Lincoln de Brad Furman, Matthew McConaughey, Ryan Philippe, Marisa Tomei et tout. Adapté d'un bouquin de Connelly,
dont t'avais parlé déjà.
Ouais, puis bon, c'est un bon petit polar, hein, franchement. Et puis McConaughey, c'est McConaughey, merde, quoi. Sur Ciné Plus Classique, à 20h45 lundi toujours, Les Hommes Contre de Francesco Rosi, avec Alain Cuny, Gianmaria Volonté et Marc Fréchette, un film Première Guerre mondiale et La Boucherie. C'est un petit peu le sentier de la gloire italien de Francesco Rosi, hein, parce que bon, bah, c'est également des types qui voient leur homme lors de la Première Guerre mondiale se faire massacrer, et puis bon, ils se disent bon, bah, ça suffit, quoi, c'est bon, quoi, on a compris, quoi. Et puis donc ils vont se retourner contre leur chef, quoi, pour essayer d'arrêter tout ça. Et puis Rosie, à l'époque, bon, était pas aussi on va dire de droite, d'accord. Je n'en dirai pas plus.
Je me sens pas visé.
Sur OCS Ciné Choc, OCS Choc, toujours lundi à 20h40, Hunter the Dragon. Mais c'est le début de la soirée, parce que à 22h15, après Hunter the Dragon, il y a un documentaire qui s'appelle Films of Fury, The Kung Fu Movie. Et après,
sur chaîne, ça,
c'est sur OCS Choc. Et à 23h, Ip Man, la légende est née. Donc, film de Ip Man, pas l'espèce de bouse bobo qui sont en train de me sortir de Wong Kar Wai.
Tu l'as pas vu. Tu peux pas dire, mais tu peux pas.
J'ai vu 4 fois la bande-annonce et tout, ça me suffit, j'ai l'impression que...
Mais après, c'est une pub pour un parfum, comme les Wong Kar Wai, mais...
Ouais,
mais... Alors, le vrai Ip Man, c'est quoi, c'est celui avec Donnie Yen ou pas?
Le nouveau parfum de Wong Kar Wai.
Ouais, celui avec Donnie Yen. Oui, c'est celui avec Donnie Yen.
Pour homme.
Franchement, quoi, Donnie Yen et Tony Leung.
Non, mais Tony Leung, oui, il sera jamais un artiste martial, mais voilà. Peut-être que... Bon, bah. On sait pas.
J'aime bien. Non, je suis d'accord avec toi.
J'ai l'habitude de me bastonner avec Xavier. Il y a n'importe quel film de Vin Diesel, c'est une bouse. Je suis allé voir, il dit que je lui dis non, c'est pas une bouse, c'est très bien. Donc il faut avoir vu les films
avant. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une dérivation e-télé. Normalement, tu sais, on se distribue toujours à pile ou face, qui est pour, qui est contre.
Là, ça y est. Ok, on passe à mardi avec que des bouses. D17 qui vous passe à 20h50. Turbulence en plein ciel de Fred Hollenrey avec Casper Van Dien, Nicole Leggert et Brad Dourif.
Mais oui,
pas mal.
Très bien.
Et si ce Fred Hollenrey ne vous plaît pas, mardi prochain, sur 13ème rue, un autre Fred Hollenrey, Extrême Décision, avec Ice-T, Rick Kramer et Kimberly Oja.
C'est bien ces titres de films qui se ressemblent tous. Ultime Décision avec Steven Seagal, c'est pas Extrême Décision, mais c'est pas...
Non, c'est extrême, là. Et ouais, sur TF6, mardi également, il y a Braquage à l'espagnol de Brian Gers.
Braquage à l'italienne, à l'anglaise, à l'espagnol,
à la catalane, à la basque, à la marseillaise, à la Yveline.
Alors c'est une copro américano-espagnole, quoi, qui se passe en Espagne, mais il y a aucun acteur espagnol dedans. Il y a William Baldwin, Hélène Pompeo. Ouais. Ok, donc mercredi sur Arte, The Wrestler.
Ah oui.
Bah voilà, bon bah ok.
Mickey Rourke.
Bah d'accord. Ou alors, si vous n'avez pas The Wrestler, sur D17, Direct Contact de Danny Lerner avec Dolph Lundgren, Michael Paré, ça va cartonner. Sur Syfy, à 23h15.
Professeur Thibault, toi, quand on parle de voilà Dolph Lundgren, Casper Van Dien et tout, est-ce que toi, c'est aussi ta cam ou c'est...
Ah oui, bah, tout à fait.
Ouais.
Ah
ouais.
J'adore.
Toi, t'en passes pas, toi, à la Cinémathèque, des trucs comme ça?
Bah, parce que ça, c'est des trucs super récents qui ont été faits en direct ou vidéo. Donc,
ouais, c'est donc,
il est réserve pour Télé Toulouse.
Direct ou DVD, mais c'est... Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui se sont faites voilà, en direct ou DVD, donc on peut pas passer, voilà. Mais j'adorerais faire un petit truc sur Steven Seagal avec Nico. J'adore Nico.
Nico, c'est génial. Ouais. Ou les premiers Van Damme.
Un peu moins. Van Damme un peu moins. Je trouve qu'il n'y a pas la brutalité qu'il y a dans un Steven Seagal. Voilà. Voilà.
Il y a un
très bon bouquin sur Steven Seagal d'ailleurs qui est sorti aux États-Unis. Il s'appelle Seagalogie.
Ah.
Et okay. Une analyse de l'œuvre de Steven Seagal et qui est super bien faite, super intéressante.
Je pense qu'Amazon va chauffer. mercredi, toujours sur Syfy à 23h15, Stanley Story, c'est un documentaire qui date de 2010, qui est pas mal, qui est sympa. Et tu vois carrément Stanley qui répond aux questions des mecs et tout. Il est dans sa cuisine, tranquille. Puis de temps en temps, il y a sa femme à côté qui dit « Mais non, c'est pas comme ça, rappelle-toi. » C'est vachement rigolo. Et bon, bah, le personnage, comme il est d'habitude, hein, si vous connaissez un peu Monsieur Stanley Lieber, vous savez que bon, il est toujours, la banane, tranquille et tout, c'est pareil, hein, et bon, c'est vachement instructif quand même. Jeudi, sur Canal Plus Cinéma, le grand soir de ceux qui vous ont foutu le bordel à Cinémathèque, il y a pas si longtemps que ça. Et c'est toute une soirée hein, d'auto-promotion Canal+, bien sûr, avec un documentaire qui s'appelle « Les lendemains qui chantent » et qui raconte toute l'histoire du couple Carverne de Lépine, comment ils se sont rencontrés et tout.
Ils ont été déçus par Jean-Marie Messier et tout ça.
Voilà, tout ça. Donc, c'est sur Canal+ Cinéma. Jeudi prochain, jeudi toujours, ça c'est une soirée que je te dédie, d'ailleurs. Ciné+ Club qui propose à 20h45... Les fantasmes de Catherine de Michel Barney en 77. Michel Barney, tu connais quand même.
Ah oui.
Avec Don Cumming, Erika Cool.
Cool, hein. Ah bah oui, hein, là, hein, c'est hein,
j'ai pas fait blonde, d'article
dans le, ouais,
j'ai une pas, blonde pas mal, hein.
Franchement, pas fait d'article quoi. Des films de Michel Barney dans le dico porno, hein. J'aurais bien aimé.
Ah bon?
Non, j'ai pas critiqué de Michel Barney.
Mais d'autres l'ont fait quand même. Parce
oui,
que
ah oui,
un
oui,
des,
bien
un
sûr,
des
ah
réalisateurs, Elvi France.
Ah oui, d'autres l'ont fait.
Pas de problème. Bon, là, ils sont perdus là. Tu
vois. Mais je crois que tu parlais du ministre Michel Barnier, mais c'est pas
lui. Non, pas lui. Barney. Alors, ces fantasmes de Catherine sont suivis à 22h par Prostitution 78 de Joe D'Amato.
Ah oui, D'Amato, ça parle là.
Avec Laura Gemser et Gabriel et Tinti. Laura Gemser qui est Black Emmanuel, hein, bien sûr.
Voilà, vous le savez quoi. Alors, qui a jamais fait de hard.
Et non.
Elle apparaît dans des films hard et il y a des scènes donc de sexe non simulé, pour être poli. En fait, elle est doublée, voilà. Et son mari, c'est Monsieur Tinti.
Ah bon?
Ah oui.
Ah ouais. Ah ben c'est pour ça que dans
elle
ce film
très très souvent.
Non, mais
verriez,
c'est pour ça.
Vous verriez, pour ceux qui n'ont pas payé la redevance couleur, je suis désolé pour eux, mais vous verriez, mais le ton, mais effondré quand même de Sushi derrière et qui se dit putain, je dois enchaîner derrière eux.
Non, mais. Si, non, parce que dans ce film, ce qui est assez remarquable, c'est la complicité. Alors bon, dans le film, c'est vrai qu'elle joue deux nanas qui sont copines et qui vont découvrir. Je me rappelle pas exactement quoi. Enfin bon, qui. Mais tu sens qu'il y a une complicité entre elles, quoi. Mais qui est pas uniquement pour la caméra, quoi. C'est ça qui est assez rigolo.
Non, mais c'est bien parce que le visuel dans le plateau est génial parce que sur un bout de table, on a Professeur Thibault et du sport qui ne lâche pas sa bouteille de coca ouverte depuis tout à l'heure avec la main. Professeur qui a empoigné son micro parce que le pied micro le gênait. Nous, on est de l'autre côté. On les laisse parler entre eux.
Ouais. 13h38, vous écoutez FMR.
Allez, on termine avec toujours jeudi sur TCM Stalag 17 de Billy Wilder. Là, tu vois, c'est également le grand écart, quoi, à fond, quoi. Avec Otto Preminger qui est acteur dedans, hein, qui est pas réalisateur, bien sûr. Et le grand, l'énorme. Alors bon, cet acteur, personne ne le connaît, tout. Il n'a pas eu la carrière qu'il mérite. C'est William Holden.
On a perdu la sketch.
Vendredi sur TCM.
William Holden, il jouait dans la Horde Sauvage, non?
Oui.
Oui.
Bah, oui, oui, ah, oui, oui, on le connaît. Bah, c'est oui, mais à part ce film, quoi, je veux dire. Mmh. Et d'accord. En plus, William Holden est embauché par Peckinpah à l'époque pour faire le Wild Bunch parce que justement, William Holden a été un acteur qui a tourné dans beaucoup de films noirs, dans beaucoup de westerns dans les années 50, et que Peckinpah s'est dit putain, il dit exactement, il pensait la même chose que moi, c'est-à-dire que ce mec n'a pas été utilisé suffisamment et tout. C'est pour ça qu'il en fait le patron de la bande qui va. Du Wild Bunch en fait, quoi. C'est le vieux, c'est celui qui regrette beaucoup de choses, qui dit putain non, là notre époque a disparu, tout ça. Enfin bon, c'est la fin d'une époque. Voilà quoi. Donc vendredi, justement, on parle de ça tombe bien quoi. Deux westerns. Le premier sur TCM,
excellent. C'est l'homme des vallées perdues de George Stevens avec Alan Ladd, Jack Palance. Alors là, Jack Palance, il est énorme là-dedans, quoi, hein, parce que quand il joue les méchants, il fait pas semblant. Et à Gene Arthur, Van Heflin, enfin bon, vraiment, c'est un très très bon western. Hein, c'est justement quoi, Alan Ladd qui arrive et qui pour pouvoir avoir de quoi bouffer, de quoi dormir et tout, il va aider le pecno qui l'accueille et tout quoi. Seulement, bah il y a Jack Palance qui il va venir et puis il va dire ah ouais non moi je veux tout, je veux ton bétail et tout. Et puis bon, Alan Ladd il va filer un coup de main. Alors ça c'est marrant parce que quand tu vois la taille de Jack Palance par la taille d'Alan Ladd, tu te dis il y a presque deux têtes. Mais pourtant c'est quand même le petit qui va gagner quoi. Mais ça c'est l'homme des valeurs perdues, donc c'est sur TCM vendredi prochain et sur Action également un autre western qui est pas mal du tout, c'est le Pistolero de la Rivière Rouge de Richard Thorpe avec Glenn Ford, Chad Everett et Angie Dickinson qui à l'époque elle avait à peine 20 ans les gars. Hein. Je peux vous dire.
Elle avait commencé dans Rio Bravo. Ouais, c'est Hawks qui l'a découverte. Ouais, dans Rio Bravo, je crois qu'elle a 17 ou 18 ans.
Ouais, c'est ça. Et puis là, c'est juste après, quoi. Là, vraiment très, très petite jeune et tout, quoi. Elle fait pas nana à Sinatra, quoi, comme dans les années 60, dans Ocean Eleven et les autres films des années 60, quoi. Voilà, c'est tout pour la télé. Alors, je voulais juste rajouter quelque chose et pousser un grand coup de gueule. À propos de la programmation de TF1 en ce qui concerne la série Person of Interest, excellente série hein, créée par Jonathan Nolan, le frère de Christopher hein, et tout allait bien jusqu'à mercredi soir après le troisième épisode de mercredi soir qui était en fait le 21e de la saison qui en compte 23. On est toujours bien d'accord. Et on se dit, bah, ok, il va en rester deux pour mercredi prochain. Et quand le générique de fin du dernier épisode, s'arrête, eh bien, tout de suite, une promo pour dire, mercredi prochain, c'est le retour de Grey's Anatomy. Et donc, le cliffhanger du dernier épisode de mercredi dernier, on sait pas quand on va pouvoir voir la suite de Person of Interest sur TF1.
S'il aurait diffusé, les gens auraient déjà téléchargé la saison suivante à un an et demi avant qu'elle passe sur TF1.
Non, parce que bon, justement, Person of Interest est une série qui est très très récente, hein, qui a 6 mois. C'est, la diffusion est décalée de 6 mois seulement par rapport aux États-Unis. Bon, tu vas me dire, c'est énorme en temps par rapport à ce qu'on peut faire au niveau téléchargement, mais quand même, c'est quand même assez récent, c'est pas, et c'est un produit qui est un produit haut de gamme quand même, je veux dire, pour TF1, quoi.
Qui c'est qui me fait un résumé, là?
Il était tellement captivé qu'il a, il a pas préparé son
résumé. Bah oui, c'est, non, parce qu'il a la bouche qui est pleine. Et bien évidemment, nous remercions énormément le professeur Thibault d'être venu pour faire cet hommage appuyé à Jesus Franco.
C'est moi qui vous remercie, les jeunes.
Un hombre con las películas muy, muy, muy spectacular. Bien évidemment. Si.
Muy spectaculares. Donc, on récapitule quand même l'actualité, comme on dit dans les vraies émissions télé du professeur Thibault. Donc, les soirées Extrême Cinémathèque. Donc, le prochain, c'est vendredi.
Oui, c'est une fois par mois. C'est pas si on est le premier, le deuxième, troisième, quatrième, voire cinquième vendredi du mois. Donc, voilà.
Et alors là, la programmation, tu nous rappelles l'Extrême Cinémathèque?
La prochaine, c'est les Monstres de l'Espace. Voilà, de Roy Ward Baker. Voilà. Produit par la Hammer Film. Voilà. Des meilleurs films de science-fiction, selon moi, des années 60.
Et donc, toujours le Festival Extrême Cinéma, qui est fin d'année, c'est ça?
Alors, qui lui est en novembre et qui cette année sera du 5 au 10 novembre.
D'accord, à la Cinémathèque de Toulouse.
Ouais, toujours à la Cinémathèque, ouais.
Eh ben super, en attendant, si vous avez manqué tous les histoires de Nichon et tout ça qu'il y a eu dans cette émission, et d'un réalisateur qui porte le prénom du Christ et le nom de famille de Général, eh ben, heureusement grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, mais aussi les précédentes, nos chroniques écrites, laissez vos commentaires, posez vos questions, nous interpeller sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web. Suppléments-weekend.fr. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz. Nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM et on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, un polar qui a le parfum du nom de la rose, à savoir Campus Tellae. Les auteurs Pierre Roland Saint-Dizier et Andrea Mouti sont annoncés sur notre plateau.
Nous vous parlerons également du film de science-fiction Oblivion,
que j'ai vu il y a 2-3 jours là.
Voilà. Et je tenterai de voir The Grandmaster dont nous vous parlions tout à l'heure en négatif pour essayer de voir
si nos prospectives sont confirmées.
Merci à tous et en attendant, nous souhaitons un bon visionnage pour essayer de choper les films de Jesus Franco avec ce petit coin jazz, oui. Un petit peu de disco.
On espère vous avoir donné envie de les voir.
La reprise du même morceau que tout à l'heure par le groupe Odeur.
Annoncer à nos frères la vieille, la vérité.